Bonsoir tout le monde, bienvenue au Faber-Cast, c'est moi Faber-Glass, je vais enlever ma casquette je pense parce que sinon le monde va me voir dans l'obscurité de moi et moi c'est le long.
Dark side
of the Faber. C'est le dark side of the Faber, ouais je le sais.
L'autre je vais regarder son chapeau de cowboy parce qu'il est kayfabe.
Ouais il est kayfabe, fait que je vous présente mes amis, écoute là, j'ai dit quand je partais ce podcast là qu'il y avait une affaire que j'avais vraiment envie de faire, c'est à dire whatever the fuck I wanted to do. Puis tu sais, des fois j'aime vraiment ça prendre le temps de faire de quoi qui a pas rapport là. Tu sais, un épisode qui a aucun lien.
C'est
que genre mes portes de garde-robe ouvertes pis tout, man. Tu sais, j'aurais dû la fermer par exemple.
Des bonbons classés.
Ouais, on peut regarder ça tantôt plus tard dans l'épisode, mais tout ça pour dire que c'est ça, j'ai deux de mes beaux chums ici. Bon, on a aucune idée de quoi on va parler, mais on va parler. Ça, je peux vous l'assurer. Fait qu'on a Buck Lortie ici qui s'appelle pas Cédric ni rien. Et puis Sébastien Mani. Mon chum que vous avez déjà vu, si vous avez écouté le podcast de hockey qu'on a fait, Lortie, ben, c'est mon chum d'enfance, littéralement, là, depuis toujours. Moi, yeah. Lui, on a probablement, je dirais, 5 des 10 pool wrestling matchs les plus épiques de la dernière décennie. Là, il se met en arrière dans ma piscine. On a vu des spears. Ouais, le spear du deck, c'était incroyable, là, le gros. C'était un grand moment de pool wrestling. Fait qu'on va peut-être commémorer ça, sinon... c'est ça, on est là, je sais qu'on parlait, nous autres, cette semaine, comme qu'on allait faire un podcast, puis vous aviez lancé des sujets de même. Toi, je sais que tu tripes bien Amanda Nunes. Fait que tu sais, vu qu'on fait du MMA sur la page, on va pouvoir parler d'Amanda Nunes et tout. Je vous dis que ça allait peut-être tout mener dans des discussions liées à notre ami la chèvre Jambon.
Ouais, ça va encore tomber sur Connor.
Sûrement, parce que...
Ça finit toujours sur Connor.
Ouais, fait que on peut peut-être se diriger là-dedans, sinon... On a le chum Lortie qui est littéralement un commissioner pour une fête de lutte québécoise. Fait que, on va peut-être voir nous parler de ça, à quoi ça consiste, c'est qu'on peut checker ça, puis parler peut-être de lutte québécoise, puis de lutte parce que aussi, il y a le Royal Rumble qui arrive. À grands pas, je le sais même pas c'est quand, mais je le sais que c'est en janvier.
C'est quelque chose comme
27.
Puis écoute, moi, la dernière fois que j'ai écouté de la lutte, c'était avec vous autres, là, quand on est allé chez vous. Je peux même pas te dire c'était quoi qu'on a vraiment écouté le non pay-per-view. C'était
Black Swan meets Ronda Rousey. C'est ça le show.
En tout cas, fait que, ouais, c'est vrai que Ronda Rousey est juste passé pointé à la fin par Chrissy Hamad parce qu'elle s'est en allée et j'étais mad.
C'était 4 heures de Buck qui nous parlait de ses séminaires de lutte québécoise. Puis d'imitation de Scott Steiner.
Ça, c'est à cause de toi, man. J'ai jamais allumé Scott Steiner. Puis là, tu me disais Scott Steiner. Genre, il est incroyable. Je suis comme, ok.
Tu vois, dans mes fiertés de vie, d'avoir créé un culte de Scott Steiner dans nous trois, c'est un des
rendu là, est-ce que Joe Rogan est le plus grand philosophe de l'histoire? Parce que il a fait ben des podcasts, des cartes, il en a fait combien?
Des cartes, le gros man, c'est I think therefore I am. C'est la base de la fille.
J'ai pas chez Philo 1, moi je peux pas le savoir.
Mais t'as eu Neckbomb 103.
Non, j'ai pas.
t'as pas passé Neckbomb 103?
Non!
T'as-tu passé Blading with New Jack, man?
I don't stab him 9 times, I stab him 14 times.
Je pense que ça mérite d'expliquer ce qu'est New Jack.
Vas-y.
Oh, gosh,
man. New Jack, lutteur extrême, connu pour toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure. La plus grande dans notre tête étant à la fois où quelqu'un, un jeune, il a demandé de l'aider parce que dans le fond, à la lutte, il y a ce qu'on appelle blading. C'est comme un dérivé de bleeding, mais c'est juste quand le monde ne regarde pas, ben l'arbitre. La plupart du temps, c'est l'arbitre qui fournit une petite lame. Oh, des fois, il est tapé, ouais, c'est vrai. Il fournit une petite lame, là, tu te coupes, là, tu saignes. Moi, c'est comme, oh my god, il saigne. Ça pour dire que le gars, il a demandé juste de l'aider à se couper parce qu'il était pas habitué, l'autre, l'a même poignardé, ouais.
Il a jamais lutté, ce gars-là, man, Mass Transit, là. Dans le fond, il s'est pointé au show de la ECW. Il est allé voir Paul Heyman. Hey, si t'as besoin d'un lutteur, je suis là. Ça a l'air que tout le monde le détestait dans le backstage parce qu'il n'y avait pas d'étiquette de backstage. Puis là, ben finalement, Ian Rotten ne fait pas faire le chemin. Fait que Paul Heyman, il a jasé avec. Il a dit, ah, c'est qui que t'as trainé? Killer Kowalski. Puis Killer Kowalski était là à ce show-là, puis personne n'est allé lui demander « Hey, ton kid va lutter pour nous autres. » Il y a personne qui est allé le voir. Puis, ben, il a mangé à voler de sa vie, il a poursuivi la ECW, tout ça, puis malheureusement, ben, il est mort pendant les poursuites judiciaires. Mais...
Attends, le gars de New York a poignardé, il est mort?
Non, le Mass Transit Incident, il est mort après ça pour une opération, je pense que c'était à l'estomac, une affaire de même. Puis après ça, dans le fond... l'autre gars que tu parles, que lui, il l'a vraiment stabé, parce que il avait donné, je pense, un gens qui disait, il m'a frappé une couple de fois, genre en face, puis j'avais pas trop trippé. Puis,
fait que je l'ai poignardé.
Ouais.
À multiples reprises.
14 fois.
Ben, c'est ça qui fait New Jack, là, fait que c'est un personnage mythique de la lutte. Selon nous, du moins.
Ah, c'est. Moi, il est dans mon Hall of Fame.
Non.
Ouais.
Pas le choix. Parce que, tu sais, pareil, c'est ça que pour le monde là, qui écoute pas la lutte, pas à tout. Puis ils disent, oh, mais tu sais, c'est comme. C'est arrangé la lutte, là, tu sais, c'est pas vrai, pis tout. C'est vrai, tu sais, c'est comme c'est prédéterminé à ce fuck. Mais les doutes, quand ils montent sur des échelles, pis qu'ils se collissent en bas en backflip, comme PCO l'a fait, pis que les trois catchers qui sont supposés de le catcher décollissent parce qu'ils voient, genre, PCO flipper d'une échelle. Pis que PCO mange le stitissement en pleine gueule après avoir sauté de 12 pieds dans les airs, ben t'sais, il se fait mal pour vrai.
Pis qu'il fait quand même, il se replace quand même sur la table qu'il a pas défoncé parce qu'il était supposé se faire catcher pis tout a l'air naturel. Ouais. Parce que PCO c'est un pro.
Exactement, fait que c'est ça, mais c'est pour ça que des fois la lutte ça nous donne droit à des drôles de personnages parce qu'il faut quand même avoir, t'sais, PCO là, personnellement, c'est une des personnes que je connais. Qui a comme le gros. Qui sait pas c'est quoi avoir mal, lui.
C'est fou.
Tu sais, quand on roule avec dans le jou, là, pis si tu veux le soumettre, faut que tu le choke, là. T'as absolument pas le choix,
parce que
faire une clé de bras, first, c'est ultra, ultra fort, ouais. Tu sais, deux pieds de bras, c'est pas pour rien, là. Pis, Chris, man, il s'en calisse, là. T'sais, ça lui fait pas mal, il y a genre une tolérance à la douleur qui est absolument autre à cause de toutes ces années-là de lutte, pis à manger des chaises en pleine tête et. Et que c'est autre affaire, là.
Ouais, j'assume qu'avant que Pierre-Carl Ouellet te dise « Arrête, faut que ça... »
Ouais, mais ça, mais il arrête
pas. « Arrête, ça fait mal, là, ça va pas être une phrase qu'il dit souvent. »
Tu sais, même moi, à Adjou, j'ai un style en dessous. J'aime ça, ou j'aimais ça, les Pissio, là, il vient moins, parce que c'est comme un
lutteur. Il doit être un peu pesant, sur le dessus.
Ouais, c'est ça, c'est genre... Moi, j'ai ma grosse game Butterfly, là, j'ai mes Butterfly, là, je réussis, je travaille bien avec, pendant... Une minute et demie, ben après je sens plus.
Ouais, c'est ça. C'est clair, là.
Fait que là, ben.
Il est fait... massif.
Non, puis... il est très massif. Puis... On a un moment, là, à compé, là, à Oka. C'est un des moments, là, les plus épiques de l'histoire du jiu-jitsu brésilien, là, je vous niaise pas. T'as mon PCO, toi, Esti, qui roule avec un autre gros dude, là. Là, ça roule. Tu sais, c'est des combats ceinture blanche, des Esti de gros gars, là. Je pense que la catégorie de poids, c'est genre 200. 20 livres et plus. De quoi de même
en fait? Et plus, là. Ouais, et plus. Tu disais que Pissio avait coupé en mode 220.
Non, ben, ça, c'est un autre.
Ouais, c'est sûr qu'il a déjà voulu.
Il m'a dit que ça l'intéressait, mais j'ai dit, oh, j'aurais pas le temps d'être en bas de 220 livres, tu sais, pour ce poids-là. J'étais genre, tu sais, Pissio, je pense pas que tu peux peser physiquement en bas de 220
livres. Genre, d'après moi, la seule façon qu'il peut réussir, c'est s'il se coupe un bras, là.
Ouais, littéralement. Fait que tout ça pour dire qu'il est là à couper, pis il se peint. C'est un bon combat, c'est vraiment un bon combat. Pis là, un moment donné, des compés de joue, ils te mettent souvent 4 mats, mais t'as la grosseur d'un mat, tu sais, c'est un... qui est quand même une bonne superficie, mais qui est une moins bonne superficie, mettons, si t'es quelqu'un de la 16 à PCO, ou du gars contre qui roulait. Fait que là, ils sont là en train de rouler, puis ils sortent du mat, genre. Fait que là, l'arbitre, c'est pour être, puis il dit, OK, stop, genre, break, on revient dans le milieu du mat. L'autre dude avait sûrement déjà fait une compé de joue, fait que tu sais, comprends, lui, t'sais, il est de même, fait que là, il fait juste une petite roulade, il revient sur ses genoux, mais mon PCO, lui, il comprend pas vraiment, fait que là, il est genre, what the fuck, vous, ça va, oh, il est parti après, de même, t'as le temps, comme, mais pendant que le ref avait le dos tourné de même, en train de ramasser une ceinture, là, t'as le ref qui se retourne voir mon PCO qui gèle l'autre, genre, bang, et genre, oh shit, ils vont séparer ça, pis tout, ils l'ont pas disqualifié, là, finalement, parce que, t'sais, il a clairement vu que tu sais, il a pas compris, là, pis lui, il devait penser que c'est comme du MMA asti, le gros, là, tu sais. Tant que l'arbitre t'arrache pas, tu l'autre doute, tu le. Tu sais, en tout cas, je le sais pas, mais. Hey, l'autre gars, gros, là, tu te relèves, tout pèse le lap, tu vois pisser au cours après toi, qui te ramasse. Mais bref, je pense, il a gagné deux. Tu gagnes deux médailles d'or, ou une médaille d'or, ou une médaille d'argent, tu connais, mais en tout cas, il est.
Ah, mais c'est une bonne performance. Le gars, c'est une machine tout court. Pour l'avoir vu s'entraîner, pour l'avoir vu lutter, c'est. Honnêtement, c'est le. Il est prêt à prendre les risques. Pis surtout à son âge, là. Lui, écoute, son combat contre Walter, là, il s'est donné comme un malade. Puis regardez ce que ça a donné aujourd'hui.
Ah, c'est. Puis ça, c'est une des top stars dans le monde.
Ouais, c'est ça, c'est, tu sais, pour mettre le monde en contexte, souvent quand t'es un lutteur, genre, indépendant, que le monde le savent, là, qui est genre on the verge, là, de signer avec la WWE, qui est la plus grosse promotion au monde, du moins, que pour les gens qui suivent pas vraiment ça, pis sont pas au courant, vraiment, tu sais, c'est la promotion qui a le plus de visibilité, pis tout. Pis souvent, les derniers matchs sur le circuit indépendant, de ce monde-là, ou dans leur dernier match, ça va être contre PCO. Tu sais, pour les fans d'MMA, PCO a été le dernier match de lutte à Matt Riddle avec Sting à WWE. Matt Riddle qui a arrêté les MMA parce qu'il était incapable de pas trop fumer de pot. Tu sais, même plus que les années avançaient puis que les thresholds de pot tolérables dans l'urine augmentaient, Matt Riddle bossait tout le temps ça, encore il sait, mais c'est. C'est un autre débat, là. C'est complètement ridicule de tester pour le pot en MMA. Mais bref, c'est ce qui arrive avec Matt Riddle. Fait qu'il est allé à la lutte, mais tu sais, il est en train de tourner ça dans une carrière qui va probablement beaucoup plus le payer que le MMA, qui est un mid-level fighter à 170.
Il était souvent blessé aussi, je pense, vers la fin aussi.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr. Puis il est bon, hein. Il a un beau style en lutte. Pas vu beaucoup de combats, peut-être tu pourrais.
Il est, honnêtement, il est. Tu sais, moi, j'suis un gars de personnage. Tu sais, il rentre, il est soft. Moi, c'est cave, là. Mais juste l'affaire, là, qu'il saute, pis c'est gars comme flip, là. Il m'a eu avec. C'est cave, là. Mais il m'a eu avec ça. Le gars, il est bon, il a une bonne shape, il est athlétique. C'est.
C'est un gars que t'as le goût de regarder, je pense.
Il a un bon pack. Ouais, il a un bon pack.
Tu vois arriver, pis t'es curieux, tu sais. Je pense que c'est juste ça aussi, des fois, la lutte. C'est
même démarqué. En MMA, là.
Ouais, c'est
t'sais,
ça.
Il a toujours donné des bonnes entrevues. C'est un gars que. Tu sais, le monde, pour le niveau général de fighter qui était, le monde savait quand même c'était qui pas mal.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Tu sais, un peu, je le comparerais pas à Sage ou à Paige VanZant, là, parce que les autres, ils ont vraiment. Tu sais, Matt Riddle, il était tout sauf poussé par l'UFC, on s'entend.
Ouais, c'est
ça,
au contraire.
Mais pour un gars de ce niveau-là, il était correct connu, tu sais. Ouais. Le monde savait c'était qui, fait que.
Un peu, tu sais, comme on pourrait comparer un peu à Olivier Aubin-Mercier, là. Je pense que c'était. Peut-être, Olivier est meilleur, mais quand même, le style que tu sais qu'il sera jamais d'un top de la division, mais qu'il s'est tellement créé un personnage que le monde s'intéresse, qu'il a dépassé son propre niveau de MMA.
Ben, c'est plate pour Ali que son dernier combat contre Gilbert, mais tu sais, c'est comme. Les, je le savais que ça allait arriver, là, malheureusement. Pas pour rien que j'avais fait cette prédiction-là, puis ça me faisait chier, mais crime. Ali, c'est vrai que. Guisson check ses derniers combats, puis tu sais, on s'entend qu'il y a des affaires plus comiques qui sont arrivées. Là. Rafael Dos Anjos est devenu champion UFC un jour. Fait que juste Michael Bisping aussi.
Ouais.
Fait que juste basé là-dessus, tout peut arriver pour Ali. Puis il peut juste avoir une mini affaire qui clique, puis ça c'est un tout autre combattant. Mais de la manière que ça a l'air là, puis avec son niveau de développement dans l'UFC, c'est plus un prospect là.
Non,
il est là où il est à son meilleur de sa carrière en ce moment, puis son meilleur, c'est perdre contre les gars du top 15, puis battre à peu près toutes les autres.
Ouais, c'est ça.
T'sais, c'est comme il a genre littéralement gagné le spot du 16, 17, 18e dans la division la plus vaste dans toute le MMA. Il y a 120 gars signés dans l'UFC. Fait qu'il y en a quand même plus que 100 plus poches
que lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ça, j'ai une question pour vous autres, parce que moi, les MMA, je suis zéro pis une barre à part Connor pis GSP, là. Pis... Ah, le gars est incroyable. Mais...
C'est vrai, il est incroyable. Vraiment, là...
C'est le mot.
Mais, il est, mettons, c'est-tu bon pour lui, mettons, qu'il, comme vous dites, il est, mettons, 16-17, il perd, il met over des gars, c'est bon pour lui quand même qu'il y ait des défaites contre ces gars-là, ou ça peut l'encourager à monter encore plus haut, mettons?
Tu sais, si t'as le faire de night, sûrement que ça peut pousser ta popularité, mais je pense pas que c'était des combats assez bons pour que le monde dise comme oh, wow, même dans la défaite, il a volé le show. Là.
Ouais, ben c'est ça, c'est parce que ça. C'est qu'il paye pas contre des petits noms. T'sais.
Non, c'est ça. Non,
fait que c'est bon, ouais. T'sais, à la base.
Ouais.
C'est pas. Mettons son profile, il descend pas. Moi, je pense pas que Lee Aubin Mercier est meilleur ou plus poche parce qu'il a perdu ses deux derniers combats, parce qu'il a perdu contre deux gars qui sont, t'sais, qui sont, ouais, selon moi, top 15. Burns est peut-être pas encore là, techniquement, mais.
Ouais,
c'est un peu une formalité, là. Ouais. Plus qu'il apprend à se battre debout, le gars, c'est un champion du monde au sol.
Ouais.
Ça devient un genre de monstre, là. Qui d'ailleurs, il s'entraîne aux États-Unis parce que c'est comme un protégé de Vitor, un peu.
Okay.
Il s'entraîne avec Henry O, avec Anthony Johnson, tous ces gars-là. Fait que tu vois, c'est le genre de style qui essaie de se développer. Ouais. Puis c'est le même qui se bat dans la cage, il court après tout le monde. Puis...
Ouais, puis déjà, en se battant, si son mentor c'est Vitor, on sait qu'au moins il est en MMA pour au moins 20 autres années.
Ouais, exactement. On s'entend qu'il y a le physique.
Ouais.
Le physique. Il y a beaucoup de Brésiliens qui ont le physique, là, mais il y a le physique.
Une belle génétique, ouais, c'est sûr.
Exactement.
Ça joue en ligne de compte, ça. Surtout dans les sports de combat.
En faisant John Jones.
Ouais, à John Jones. Ben, encore là, le gros, moi, je reste convaincu que John Jones a littéralement jamais vraiment. Il n'a jamais pris de stéroïdes en le sachant. Genre, oui,
non,
il en a pris,
non,
mais je pense pas. Tu sais, John Jones, selon moi, n'est pas un cheater. C'est juste un esti cave. Tu sais, un cave, là, un tatal. Pas quelqu'un de pas intelligent, parce que si tu vois dans la cage, c'est le plus haut fight IQ. Tu sais, ce gars-là, tu veux pas le pogner en rematch. Là.
Non, puis c'est pour
check qu'est-ce qu'il a fait à Cormier dans le rematch, qui est absolument incroyable. Check qu'est-ce qu'il vient de faire à Gustafsson. Premier coup, il l'a engagé, s'est fait brasser. Deuxième coup, il dit parfait. Je le kick. Je m'approche jamais de son punching range, je mange zéro coup de poing, puis j'essaye de le take down. Puis la majorité des gars, quand ça marche pas, ils sont genre fuck, est-ce que ça marche pas?
Ouais,
plan B, man, plan B, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Plan B, John Jones, lui, reste tout le temps tranquille, puis c'est ça le plan, puis il sait que c'est ça va marcher, il sait que ça va marcher.
Ouais,
fait qu'il continue de le faire, puis ça réussit par marcher. Gustafsson, c'est pas le gars que tu vas arriver là, deux, trois petites affaires, bang, tu vas le double leg. Ça arrive pas, ces affaires-là. Ouais. Fait qu'il a essayé trois takedowns, quatre takedowns, cinq takedowns.
250 leg kicks.
Exactement. Puis tu sais, un moment donné, ça a marché le takedown, ça a pris un takedown.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand j'entends à chaque fois qu'il y a un fight de John Jones, que, il pourrait se faire upset. On sait, juste aujourd'hui avec Anthony Smith, là. Il pourrait se faire upset. Je pense pas que John Jones est un candidat à se faire upset parce que c'est le gars qui va toujours avoir la bonne stratégie puis qui va pas le. Tu sais, des fois, il y a des gars, tu dis, lui, c'est vrai qu'il pourrait se faire upset parce que, mettons, il a telle faiblesse puis on le sait qu'il va quand même. Il va laisser ça arriver. Tu sais, il y a des gars, tu dis, lui, il est bon au sol, mais tu sais qu'il peut se faire upset parce que debout, il va se faire du strike. John Jones, il va être prêt, il va avoir la bonne stratégie puis il va te planter. Là. C'est pas le gars que tu vas juste. T'as pointé et dit oh, John n'était pas prêt puis il a jamais prévu telle affaire. Là. À moins d'être vraiment un total package, à ce moment-là, tu l'as pas upset, tu l'as juste battu, right?
Ouais.
Mais je sais dire une performance de oh, personne s'attendait, Jones avait. Tu sais, une performance comme Cyborg vient de se faire passer, je vois jamais Jones faire passer ça parce qu'il est juste trop prêt.
Ouais. Ça, mettons que j'amène la question de même, là. Quand il va prendre sa retraite, pensez-vous qu'il aurait. Tu sais, vous connaissez bien lui, vous autres aussi. Pensez-vous qu'il va avoir le potentiel de signer à eux?
J'espère que non. Je vois pas vraiment l'intérêt pour un John Jones. C'est un gars qui est beaucoup trop chill. Qui est pas vraiment... Jones, c'est un showman parce que... Tu sais, il fait le show à cause de sa personnalité de merde. Mais je veux dire,
c'est pas un gars... Ouais, gros, c'est parce que... Genre, si t'aimes le sport, là, tu peux pas être indifférent à John Jones parce que là, le gros, c'est... littéralement à Wayne Gretzky, Connor McDavid, pis c'est...
Ouais,
tu sais, c'est Connor McDavid avec qui est un estidomé qui est littéralement la seule personne qui peut le battre, t'sais, la seule personne qui peut battre John Jones, c'est John Jones.
Ouais.
Pis il nous l'a prouvé, tu sais, les seules
défaites
qu'il y a, les millions de fois qu'il s'est fait enlever ses titres, parce qu'il a fait le cave, c'est ça, une DQ, parce qu'il a pogné l'autre en full bomb, puis le 12-6 elbow dans la tête, quand t'as clairement pas le droit de faire
ça.
D'ailleurs, ce qui est, tu sais, un des worst referee calls de l'histoire de l'UFC, parce que c'était Steve Mazzagatti, qui est littéralement célèbre.
Ouais.
Et puis,
j'ai vu des vidéos de lui.
Pour savoir si Matt Hamill était correct. Il était hors de son champ de vision, puis il a demandé, Matt, t'es-tu correct? Il faut que tu bouges, puis tout, faut que tu réagisses. Le problème, c'est que Matt Hamill, il est sourd. Mais c'est parce que c'est genre colissement connu, là.
Oh non.
Fait que, tu sais, il a genre arrêté le combat. Il a genre arrêté parce que Matt Hamill répondait pas. Puis là, après, il a revisé sa décision parce que c'était des 12-6. Fait qu'il a DQ John Jones. Mais il a arrêté le combat avec Donald TKO, là, John ouais. Jones, tu comprends?
Ouais.
Parce que l'autre était pas non-responsive, mais il est non-responsive parce que t'es pas dans son champ de vision, ouais, et tu y parles, et il saute pas, à la ouais,
neck. En plus, t'as une crowd qui ouais, gueule, t'as plus, les coaching staff des deux bords. Hey, oublie ça.
Non, c'est ça, exact. Fait que c'est la seule défaite en MMA de John Jones. Ouais. C'est le 1 sur sa fiche qui devrait pas être là.
S'il reste à l'air d'Heavyweight, ça va toujours rester un.
Ouais,
en ce moment, à l'air d'Heavyweight, qui était autrefois, moi je trouve.
C'est le monde.
Ça a déjà été tellement une bonne division. Puis aujourd'hui, c'est... honnêtement, s'il reste à l'air d'Heavyweight, je pense pas qu'il va avoir vraiment de meilleure opposition que DJ avait à Flyweight. Là. Ouais, il n'y a plus rien à l'air d'Heavyweight. C'est plate.
C'est malheureux là. Tu sais, t'as comme. Il y a genre. Thiago Santos qui va être dangereux pour les 3 secondes qu'il va se battre ouais, debout contre ça. Lui avant inévitablement se faire takedown sur le premier attempt.
Ouais, il va se faire outreach tout le long, là, il s'approchera ouais, jamais vraiment. Ça, le ouais. temps qu'il va être debout, il va être en dehors du reach tout le temps.
Puis après, Anthony Smith, que oh, tu vois, c'est pas un challenge vraiment, mais c'est un de ceux qui a le plus de chances
ouais.
de sortir une décision. John ouais, Jones. Ça. Parce que le gars, il a du cœur, il y a rien que ça, du cœur,
Il a du cœur, puis quand même, c'est un gars en forme, fait que, ça peut finir par avoir l'air d'un combo comme celui contre...
OSP,
ouais, c'est ça.
Ça a le potentiel.
Tu sais, un combat que tu dis, ouais, il avait vraiment pas le talent pour, mais il a grindé, il a réussi à survivre, puis John, souvent, tu sais, il aime ça finir, mais c'est pas le gars que s'il finit pas, il va pleurer, là, au final, il veut ça. Gagner, puis...
Mais
il va pas pour le kill à chaque fois, nécessairement. Il va aller chercher s'il peut, mais si Anthony Smith, il donne pas, il va juste le déclasser. Puis...
Ben, j'ai l'impression que... Man, ils vont voir de plus en plus de finish de John Jones, parce que justement, dans le temps qu'il est en suspension, tout, il a fait un genre de grappling match là, contre Dan Anderson.
Mm-hmm.
C'était à chier, mon gars,
J'imagine.
Ils se sont collés dans. C'était un match de grappling, mais dans un octogone. Dans un autre, dans la promotion de grappling de Chelsea Sonnen.
Ah ouais, ça fait du sens.
C'était genre. Ils se sont collés dans la cage, que le long, un moment donné, Jones a reçu un takedown à 10 minutes au début du combat, puis il l'a insta side choke. Là. Là, il s'est dit, Chris, c'est nice ça, cette affaire-là. Là, je pense qu'il va commencer à faire ça. Tu sais, après avoir standé guillotine, Lyoto Machida, puis avoir Kimura, Vitor Belfort, ouais. qui sont des black belts. Il a dit, ouais, je pense que je vais commencer ça, le jiu. Fait que là, ça, John Jones fait du jiu. Fait que moi, je pense que, genre, il y a un des ground and pound les plus violents que j'ai vu dans toute ma vie, puis c'est naturel avec ses bras de 11 pieds de long. Fait que. T'sais, d'après moi, n'importe quel combat que ça va pas moindrement pas comme il veut, puis il est pas capable de finir le gars avec de quoi de bout, va jouer le takedown, puis il va le ground and pound, puis si là l'autre ça fait pas ground and pound, il va le soumettre, puis ça va venir
le
même.
De toute façon, c'est le gars qui, humainement, c'est impossible le sweep.
By the way, Canadien.
Canadien.
Je veux vraiment qu'on s'embarque dans le Canadien. Moi, je vois ton lit depuis tantôt, là.
Ok.
Pourquoi?
C'est positif, je pensais qu'on allait plus en parler le mois prochain.
Mais... Ah, c'est vrai, vous faites votre trade deadline.
On va en parler
un peu. C'est pas grave, on peut en parler un peu du Canadien. Je pense que c'est une année très positive, là. Beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé. Moi, j'aime vraiment la façon qu'ils jouent. C'est sûr, c'est pas une équipe qui a énormément de talent, ça va jamais changer. Au début de l'année, on faisait un podcast, puis genre, je repensais, puis j'ai fait une allusion en disant qu'une équipe qui a Max Domi comme meilleur attaquant a un statut de perdant sympathique. Je le crois encore. Là. Tu vois, on est tous là à dire le Canadien joue bien. Les séries commencent aujourd'hui, ils font pas les playoffs.
Non.
Puis moi, c'est ça que je considère. Tu sais, c'est vraiment le style d'équipe que.
Ils sont out des playoffs, là, selon le classement.
En ce moment, oui, mais tu sais, ils sont vraiment proches.
Voilà, je sais, c'est ça, mais.
L'Atlantique est forte cette année.
L'Atlantique est incroyable, je pense que la...
C'est le temps, là.
Tu sais, les deux meilleures équipes de la Ligue sont dans l'Atlantique. Puis moi, d'après moi, je m'attends à une grosse plage des Bruins d'ici un mois. Là. Un mois et demi, en fait, le deadline.
On se met en ligne, d'après toi?
Ouais. Tu sais, ils ont assez de jeunes pour dire qu'ils peuvent donner des assets puis rester bons dans l'avenir. puis ils ont beaucoup de gars, tu sais, qui sont rendus soit à leur pic ou dépassés. Fait que eux autres sont en ligne pour le... Tu sais, ils savent que s'ils veulent, en plus, aller avec le classement où ils vont finir, ils vont avoir besoin de battre Toronto puis Tampa Bay juste pour se rendre en demi-finale. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'avoir une équipe très, très, très compétitive. Fait que, check, le plus gros joueur qui va être acquis au deadline, c'est sûr que ça... Moi, je suis sûr que ça va à Boston. Surtout si c'est un centre, là, il y a déjà le nom de Braden Shen qui circule. Il y a quelque chose de même qui se passe, je suis certain.
Ils ont dû mettre la place, c'est le cap.
Ils sont capables de fitter. Celui qui prend trop de place, c'est le chum David Backes.
Hey, c'est incroyable.
Ça, c'est un mauvais contrat, mais c'est sûr que pour cette année, ils sont capables de fitter tout ça. Là, sont, avec le pro-rata, ils vont être capables de... Eux, je sais que c'est un centre qu'ils veulent parce qu'ils sont plus capables de donner des grosses minutes à David Krejci. Puis que quand tu regardes les lignes de centre dans la division, ça n'a pas de sens. Tu sais, t'as Matthews, Tavares, Kadri, t'as Stamkos, Point, puis whoever est troisième centre en ce moment parce que sur le Lightning, tous les joueurs peuvent jouer au centre.
Ah, c'est tous des centres, hein. Ouais. T'as Kucherov puis
ils
centre.
Ouais, il est capable de jouer centre. Ils sont tous capables de jouer centre. Gould est capable de jouer centre si tu demandes. Tyler Johnson, probablement, c'est leur troisième
centre. Probablement, lui, le troisième centre. Hein.
Mais tu sais, ils peuvent switch. Toronto, c'est la même chose. Là, Marner, c'est un centre naturel. Nylander, c'est un centre naturel. Là. Tu peux en perdre un petit ta ligne de centre est intacte. Les Bruins aussi, ça va être ça, je pense. Là. Si, mettons, ils vont chercher un centre, ben, leur premier centre, c'est Bergeron. Leur deuxième, c'est le joueur qu'ils ont acquis. Le troisième, c'est Krejci. Puis Backes joue à droite, puis il va au centre.
Domi, man. Domi Dano, Kotkaniemi.
Ça fait un job en ce moment.
Domi, excuse-moi, mais tu peux pas l'aimer.
Ah, non, tu peux juste pas l'aimer. Mais il est cool, il est chill, mais je veux dire. De dire que ce gars-là est aimable s'il joue pas pour ton équipe, non. Ça reste un Domi.
Ben, moi, il me fait. Mettons, là, moi, il me fait penser un peu à Darcy Tucker, mais en plus de talent.
Domi. Il me fait penser à Darcy Tucker, tu sais, un joueur qui faisait l'unanimité côté amour.
Oh, ah, et tout, je me rappelle toute ma jeunesse. J'en ai pensé à beaucoup aimer Darcy Tucker. C'est un joueur que j'aime, c'est Darcy Tucker. Et Ty Domi, tout, je l'aimais bien.
Ça. Gros gars de Lady Bing, ça. Darcy Tucker. Oh,
la shot que Kovalev, il te l'a elbowé. Hey, honnêtement, j'ai popé, je pense, comme ben du monde dans leur salon.
Assurément. Ouais, mais tout ça pour dire que là, c'est ça, les hosties canadiens, là. faudrait qu'ils se mettent à perdre. Tout simplement.
Faut qu'ils se mettent à gagner ou à perdre, mais là, ils sont dans le
coup. Non, faut qu'ils se mettent à perdre. Il n'y a pas de question de gagner, gros. C'est pas une. Tu sais, ils sont corrects, là. Tu sais, j'aime en partie ce que je vois, surtout à l'attaque.
On s'entend. Ils sont en ligne sur l'attaque, ça marche.
Puis, tu sais, j'aime certaines parties de ce que je vois, mais c'est pas en finissant 8e et en perdant au premier tour ou en essayant bien fort et en finissant 9e qu'on va. Genre, non, il nous manque des gros morceaux dans cette équipe-là. Faut aller chercher des pics hauts au repêchage. Puis, on a la chance d'être une équipe crissement moyenne qui peut en perdre 3-4 de suite. Puis, tac, on rend du genre 13e dans cette conférence-là.
On sait que c'était le plan, tu sais. Avant l'année, tout le monde savait que ça allait être ça. Puis, je pense que les joueurs ont juste. Tu sais, ils overachieve en ce moment.
Ouais, puis il serait temps que ça arrête. Moutou, quand t'écoutes une game, c'est meilleur que l'an passé. Puis oui, le monde ne peut pas chialer. C'est plate parce que les prix des vieux au Centre Bell sont revenus le même prix qu'avant. Au début de l'année, c'était cheap comme ça. Ils sont revenus le même prix parce qu'ils vont te donner une bonne game pareil. Mais c'est pas de même, tu vas bâtir une bonne équipe. Puis je trouve qu'on a des bons morceaux en place.
Mais là, ils sont rendus avec des bons prospects.
Ouais, t'sais, c'est
ils ont vraiment bien pêché depuis 2-3 ans.
Ouais,
ça les aide beaucoup, juste avec le championnat junior. Tu as MVP du tournoi, défenseur du tournoi après ça. Tu as Ilanen qui a bien paru. Tu as Suzuki qui a été décevant selon moi, mais tu sais qui reste un super bon prospect. Ben pour eux, très intelligent.
Suzuki, Payling, tout ça va être super bon, mais tu sais, c'est que.
Là, il en manque.
Même dans nos jeunes devs, c'est ça, on n'a pas. On n'a même pas le prochain Shane Weber de 30 ans. Là.
Non, c'est ça.
Dans nos prospects. Fait que c'est grave.
T'es loin d'avoir Shane Weber dans tes prospects.
Quand t'as des équipes qui ont Burns puis Carlson.
Romanov a vraiment. Vlasic, par contre, cette année, c'est
horrible, mais je joue jamais.
Ouais, c'est
pas grave, le gros. Moi, j'étais allé contre les Sharks. Puis je sais même pas si je peux trouver un moment dans la game qu'il n'y avait pas soit Carlson ou Burns à
la
glace.
Ouais, je sais. Ben, la veille. La veille, j'étais allé à Ottawa voir les Sharks. La veille que t'es allé.
Genre, les paires de défense changent tout le temps. Ouais, t'as Brown qui joue avec un peu avec les deux.
Ouais, c'est
t'as dit. Parce que Brown joue avec Vlasic, mais Vlasic joue pas vraiment.
Quand tu checks sans oser jouer. Surtout la défensive, là. ça a tellement l'air d'être slick, facile.
Ah, puis tu sais, c'est même pas commencé, là. Dans le sens que, tu sais, Rick Carlson, ça fait 3 ans que c'est la même affaire. De octobre à janvier, tout le monde est comme, ouais, Carlson, il a ralenti. Puis rendu en février, il est revenu le meilleur joueur de la planète, ou presque. Fait que moi, je m'attends à ce que dans les prochains mois, ils partent la machine, puis c'est là qu'on va dire, OK, là, les Sharks sont pas arrêtables. Puis aussi, c'est une équipe qui a tout avantage à essayer d'aller chercher quoi, deadline, parce que la moyenne d'âge des Sharks, c'est à peu près 33 ans.
Ouais, c'est la seule affaire qui me gosse dans cette équipe-là, parce que je les aime bien, mais, tu sais, c'est le talent, il faut qu'ils gagnent là.
Ouais, c'est là, le window
là, parce que ça fait 5 ans qu'on dit ça, mais j'espère que ça pourrait être leur année, mais ça va être dur.
C'est ça qui est drôle, c'est que souvent les équipes vont se rendre en finale après qu'on ait dit que c'était leurs années. Ouais. Les Capitals l'année passée, on pensait tout que la window était fermée, puis on gagnait la coupe, puis ils l'ont gagné de façon convaincante l'année passée. Cette année, ça va être qui, on sait pas. Moi, tu sais, logiquement, tu regardes qui gagne la coupe. L'année passée, on a fait un post au deadline, j'ai dit, ben logiquement, la coupe va à Tampa Bay, mais c'est probablement pas lui qui va la gagner, puis c'est ça qui est arrivé. Puis cette année, tu sais, il n'y a aucun autre choix logique que Tampa Bay. Pis c'est pour ça qu'ils vont pas la gagner. Ouais, ça va. Ils vont la gagner dans 4 ans quand on va dire, ouais, le window est passé, le Tampa Bay c'est fini, puis ils vont gagner.
Ah, mais la window rendue là, réalité ou fiction? En général, là.
Bah, en général, réalité, là. Je pense pas que c'est un secret que. Maintenant, c'est que le window c'est vraiment tôt.
Les Blues, justement.
Ah, c'est ça, tu sais. Les joueurs.
Qu'on est en train de parler de
ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, les joueurs piquent tellement vite maintenant que je pense que dans notre tête, le pic d'un joueur, c'est encore à 27-28 ans, mais maintenant, les gars, à 23 ans, ils ont eu leur meilleure saison.
C'est fou, hein?
T'sais, tu regardes Sidney Crosby, Ovechkin, ces gars-là, à 23-24 ans, le meilleur est derrière eux, souvent. Là.
Ouais.
Mais ça veut pas dire qu'après ça, ils sont finis, ça arrête. Je veux dire, Ovechkin, Crosby, c'est encore les meilleurs joueurs au monde. Ils sont encore dans les tops, là. Moins qu'avant, mais ils sont encore totalement dans les tops.
Ouais, je dirais que ces gars-là sont arrivés dans la ligue avec des saisons de 100 à quelques points, comme si c'était pas
grave. Ouais, c'est ça. Faut dire aussi qu'eux sont arrivés dans une. C'est pour ça que j'ai toujours la misère à comparer la première saison d'Ovechkin et Crosby à d'autres, parce qu'eux sont arrivés au début de...
Juste après le
lockout, quand c'est la c'était saison. Il y a comme 6 joueurs qui ont fait plus que 120 points, à peu près. Puis Brian Giunta a compté 48 buts, puis Jason Allison était à un point par match. Fait que je pense pas que c'est un baromètre qui fait du sens.
Jonathan Chichou n'avait compté 50.
Ouais, puis l'année d'après, c'était cet Ouchi, ou genre 2 ans après, puis là, tout le monde...
Mais le lockout de 2004-2005, c'est là vraiment que t'as vu la coupure entre, mettons, les vieux et la vieille. Scott Stevens, il a pris sa retraite parce qu'il savait qu'il n'y avait plus, plus d'affaires là.
Scott Stevens, il était à un hit de se faire bannir de la ligue.
Non, ça n'existait pas dans le temps, les commotions cérébrales.
Ah, c'est vrai, c'était avant l'invention en 2006 par Michael Pecca de la commotion cérébrale.
Oh my god, Pecca.
Non, mais c'est vrai que le lockout, ça a changé la game. Puis je pense que. Surtout le dernier lockout, la demi-saison, c'est depuis ce temps-là que la game a... Pourtant, les règlements n'ont pas changé, mais c'est là que là, on va vraiment plus vers la vitesse et tout. Mais comme tu dis, le lockout de 2004-2005, il y a des gars qui étaient des All-Stars avant, puis que tout de suite après, tu sais, l'exemple flagrant, c'est Brian McCabe. Il n'y a pas eu un plus gros gap entre Brian McCabe, All-Star, top, quasiment un des top défenseurs de l'histoire des Leafs, puis après ça, aussitôt... La première saison après le lockout, tout le monde savait que c'était fini. Là. Je pense que dans les 3 premiers matchs, il a dû prendre genre 14 punitions d'accrochage parce que c'est là qu'ils ont instauré l'accrochage.
Ouais.
Qui est genre que tous les vieux n'étaient pas capables de suivre sauf 2 vieux, c'est-à-dire Nick Lidstrom et Chris Pronger. Puis c'est pas parce qu'ils accrochaient pas, c'est parce qu'apparemment le règlement ça s'appliquait pas à eux. Ils ont juste passé le reste de leur carrière à accrocher tout le monde pour les refs. Étaient comme fuck, droits acquis, close grand-père, continue.
Check juste pour le fun, là. Check-in des games de la finale de la Coupe Stanley là, de 2003-2004, Calgary-Tampa Bay. Tu sais, de l'accrochage évident, là, du 3-4 secondes, on le colle pas.
Oui.
C'est...
Le genre de série où tu te retrouves avec un combat de Vincent Lecavalier et Jerome McGinn.
Hey, ça, c'était incroyable.
C'est quand même un moment marquant dans cette série-là.
C'est le moment qu'on se souvient.
Moi, c'est le bout que je me rappelle.
Moi, je me souviens de ça puis du souvenir flou de Martin Gélina.
Pour moi, c'est ça. C'était bon, c'était
un peu. Pour moi, c'est juste.
Toujours des astines même, genre Éric Perrin. On est nulle part.
Éric Perrin, un joueur de hockey. Éric Perrin qui avait fait la Lightning pour aucune raison, parce que c'était le meilleur chum à Le Cavalier.
Aïe, aïe.
La légende des Trashers d'Atlanta, Éric Perrin.
C'est vrai.
Hey, j'avais oublié qu'il avait existé, lui, Éric Perrin.
Il les Trashers de l'Atlanta. Je pensais tout le temps, j'avais oublié que les Trashers de l'Atlanta avaient existé.
Oh, mais c'était quoi l'idée de mettre une équipe dans le Deep South de Maine?
Ils ont essayé deux fois.
Ouais, mais.
Ils voulaient.
Puis ils vont. Ils grossent même pas sur qu'ils réessayent.
Ils vont réessayer maintenant.
C'est un des plus gros marchés aux States. C'est ça l'affaire.
Ouais,
c'est un des plus gros marchés.
Le football,
c'est un marché de soccer.
Ben, il y a le soccer, mais tu sais, t'as les Falcons. T'as Georgia University qui sont très très forts aussi.
Ouais, mais c'est.
Le basket.
C'est vraiment le soccer.
Ah, les Braves.
Genre, ils sont vraiment fans des trois sports, de foot collégial, baseball, mais le Atlanta FC, là, ça n'a aucun sens comment c'est gros. Ils ont bâti le Mercedes Stadium. Tu sais, c'est le même propriétaire que les Falcons, puis Atlanta FC. Puis, tu sais, lui, son équipe, c'est l'Atlanta FC. Là. Il y a les Falcons, accessoirement, mais il est allé chercher. En tout cas, j'ai un ami qui tripe sur le soccer qui m'a tout expliqué ça, qui est allé chercher deux stars du Paraguay puis des gars d'Amérique du Sud. Puis...
Tu sais, ce qui est nice avec le soccer, c'est que, tu sais, mettons, on va dire, tu check le hockey.
Tu peux voler n'importe quel, n'importe qui.
Ouais.
Il a peut-être voulu 100 millions pour être dans mon esprit. J'en ai dit.
T'sais, c'est pas comme, mettons, le hockey, on va dire, OK, les Canadiens sont bons, les Américains, les Européens.
Ouais, il y a comme, tu sais, il y a un bon joueur au hockey, il peut provenir théoriquement de 5 pays, à peu près.
Ouais.
Au soccer, il peut venir de n'importe où.
C'est ça qui est cool. Puis, tu sais, en même temps, moi, je suis pas le soccer. Je suis pas fan.
Mais pourquoi pas?
Ben oui.
Je suis pas fan. C'est Zlatan suédois.
Ouais, c'est ça. Mais. PewDiePie aussi.
PewDiePie, celui-là.
PewDiePie,
Qui d'autre? Qui québécois? Le DJ qui est mort, là.
Tiesto.
Il est pas mort.
Pas mort, c'est Avicii.
Ah oui, Avicii.
Avicii, man. Ouais. Le très mort Avicii. Ah,
plus que mort Avicii, man. T'es sous, t'es sous. Son bête était à chier. Ce qui risque de bruit, man. J'aurais ça à dire. Rest in peace, Paris.
On va pas profaner ta tombe, là.
Non.
T'étais pas une grosse.
Mais ton bête de merde, ouais, man. Sacrement. Ça, c'est abrasif à ce spot. Fait que là, avant, je me fâche. On parlait d'Amanda Nunes. On a comme skippé.
Ah, c'est vrai, on a parlé du UFC, mais on n'a pas parlé d'Amanda Nunes. Qui est rendu dans. Moi, pour vrai, j'ai un top. Genre, j'avais mon Hall of Fame personnel du MMA qui est pas genre les trois meilleurs ever, là, qui est juste mes trois préférés. Que... Les trois qui avaient réussi à mettre de cut, c'était GSP, Habib, puis Daniel Cormier, puis. Moi, maintenant, Nunes, depuis sa dernière performance, est là. Je pense que, tu sais, bon, premièrement, on en parlait, elle mérite son statut de GOAT maintenant.
C'est mais,
en tout cas, dans tous les cas, elle mérite son statut de légende, ça, c'est certain. Puis, je pense que les plus belles légendes, c'est celles qui sont inattendues, right? Puis, il n'y a pas plus inattendu qu'Amanda Nunes.
Ouais, que la fille qui s'est faite TKO par Kat Zingano parce qu'elle manquait de jus, là, à la fin du combat, puis là, elle est devenue une grosse.
C'est ça, c'est incroyable.
Ouais, une grosse larme, puis Kat Zingano l'a pété. Puis, genre. Je sais pas combien d'années plus tard, mettons. 3-4 ans plus tard.
Ouais.
5 ans plus tard.
Ça, on est
en train de. Il y en a une qui mange un coup d'ongle dans l'œil.
Un coup d'ongle?
Un coup d'ongle d'orteil dans l'œil sur un kick, pis là, genre, quoi, son œil est fucked up.
Mais pas des cues, genre.
Non, gros, c'est un kick.
C'est ça.
Ça posait à l'égal, un kick. Juste que l'autre, tu sais, quand elle a vu le kick arriver, au lieu de le manger, at first, genre.
Ouais, elle a eu un.
Ouch.
Comme un réflexe, fait que c'est comme le gros, elle s'est fait effleurer par l'ongle, c'est juste ça, elle avait son œil ouvert. Fait que il y a comme slicé l'œil là. Ouais. Fait que là, elle a perdu à cause de ça, malheureusement. Ouais. Puis genre, quelques combats plus tard, t'as Amanda Nunes qui a genre traité Cyborg comme un enfant. Là. Non, littéralement, genre, pis gros. C'est Chris Cyborg, là, c'est une fille qui paye genre 175-180 tous les jours. Là. Il y a des photos notoires là, avec genre Dominic Cruz, Frankie Edgar, pis ils ont l'air des nains à côté.
Mais tu sais, je me souviens à un moment donné, je me souviens pas c'était après quel combat à catchweight, mais elle disait qu'il avait fait. Elle se battait à 140 catchweight avant qu'il ait la.
Oui, l'UFC qui a forcé à se battre à 140.
Ouais. Il y a un moment donné, elle avait dit elle-même qu'elle avait coupé 45 livres. Fait que ça veut toujours bien dire qu'il était à 185 avant cut.
Dos, genre. 45 livres d'eau, man.
Ça, c'est pas. C'est pas simple.
Elle avait dit qu'il était sur le bord de mourir dans l'octogone. Puis elle avait quand même gagné.
Des coupeurs de même de poids, c'est dégueulasse, man.
Mais c'est ça, mais pendant que tu cherches.
Ça, c'est avec l'ancien champion des 135 livres, Dominic Cruz, genre un gars de. 165-170 livres dans la vie.
On a un live react.
C'est avec l'ancien champion lightweight, Frankie Edgar.
C'est un truc, man!
Elle, en théorie, là, elle se bat 10 livres de moins dans la cage que lui avait ses pertes dans le temps.
gosh.
Lui, c'est un 155, ça, c'est une 145 féminine.
Mais ça, pensez-vous qu'à un moment donné, le UFC va devenir intergender mixte?
Mais non.
Non, mais non. Non. Je crois que non.
Non, alors c'est impossible, le gros, parce que, tu sais...
De toute façon, personne veut voir un homme frapper une femme. Non. C'est encore bien trop tabou.
Non, mais tu sais, dans un terme de combat, raison, là, oui. Je te parle pas comme ben des joueurs de la NFL.
Non, non, je parle pas de Kareem Hunt qui botte une fille, là. Mais en tout cas, mais c'est ça, mais pour, juste pour revenir à Amanda, moi, ce que je trouve le plus cool, la raison pour laquelle j'aime autant Amanda Nunes, c'est pas autant parce que ce qu'elle a fait dans l'Octagon, ce qui est quand même fou, faut le dire. Tu sais, Amanda Nunes, c'est Thanos, là. Après tous les super-héros à claquer des doigts, ouais, puis était
disparu. Ouais, c'est ça, en moins d'une minute, puis Cyborg en moins d'une minute.
Ouais, c'est ça.
Puis les deux personnages les plus dominants.
Ouais, c'est ça. Elle a déjà battu deux fois Valentina. Elle a battu Tate.
Il manque Holly Holm. That's it, that's all. Il manque juste Holly Holm, puis elle a battu toutes les meilleures combattantes féminines de l'histoire.
Ouais, c'est ça. Mais ce qui est
incroyable... Qui sont dans un poids proche d'elle, parce que les 115 livres, c'est...
Ouais, c'est ça.
Et à... Elle s'entraîne dans un des plus gros gyms aux États-Unis. Là. Il y a un team féminin énorme là-bas. Il y a Johanna, justement, qui s'entraîne là. Pis tout. Fait gros calibre de team féminin. Mais Amanda Nunes ne s'entraîne pas avec les filles. Les filles sont pas capables, quand elles se parlent, sont pas capables de prendre ses coups de poing. Elle noque tout le monde. Elle noque toutes les crises de filles dans son gym. C'est ses amis. Fait que là, elle, comme, ben, hein. Fait que là, elle se bat contre les 135 livres gars et les 145 livres gars. Fait que, tu sais... Dans le sens que, est-ce que il y a des filles genre Amanda Nunes pis Chris Cyborg qui pourraient arriver là pis péter un low-level bantamweight genre qui a une fiche de 5-2 qui a pas vraiment rapport dans l'UFC? Absolument, le gros. Absolument. Mais est-ce que tu pourrais mettre Amanda Nunes contre TJ Dillashaw demain?
Non.
Pas vraiment, mon gars. Ça serait genre absolument criminel de faire ça. Parce que, tu sais, si tu prends le meilleur homme de ce poids-là, la meilleure femme de
ce poids-là.
T'es un contre l'autre. C'est juste des différences génétiques qui sont. Même si Amanda Nunes est probablement le spécimen de fille le plus tough, puis le plus rough, puis le plus fort que tu vas trouver, elle peut pas vraiment dealer, je pense, avec quelqu'un de son poids masculin là, qui a une force de frappe tout autre à cause de la manière qui est faite génétiquement. T'sais.
Ce qui est fou aussi de Nunes, c'est que elle a tellement jamais été attendue. Moi, c'est ça. Tu sais, quand tu regardes. Corrige-moi si j'ai tort, là. Mais je regarde chaque combat de Nunes depuis son premier title shot, puis dans ma tête, je me dis, l'UFC a jamais eu l'intention qu'elle gagne ça. Tu sais, elle s'est pointée contre Cupcake parce que, bon, elle avait un peu le momentum, mais c'était juste pour donner quelqu'un à tête à affronter avant que Ronda revienne,
puis qu'il fasse puis après ça, 2 contre Misha 3, ouais, parce que c'était un combat qui avait pas rapport, mais qu'elle allait vendre.
Puis que tu sais que Ronda allait gagner, puis après ça, dire, bon, ben là, elle a sa revanche contre Holly Holm. Fait que c'était full circle. Puis là, elle a battu Tate, le 3. Puis là, ça a complètement fucké la patente. Puis après ça, ils l'ont mis contre Ronda en disant « OK, comeback de Ronda. Après ça, on fera notre patente. » Ça marche pas. Puis après ça, elle a affronté qui? Elle a affronté Valen... Elle a pas affronté Peña quelque part là-dedans? Là,
non, c'est Raquel Pennington.
Ouais. En tout cas, elle. Bon, elle, souvent, qui s'attendait qu'elle en gagne. Mais pour le... même là, on sait jamais.
Ouais, tu veux ne pas avoir. C'était au Brésil, ça, en plus. Fait que c'était comme un peu...
Ouais, ça,
mais c'est vrai que...
Mais tu sais, même après ça, tu sais, quand elle a affronté Valentina, c'est certain que l'UFC espérait un peu que Valentina gagne. Quoique après, ils ont créé les 125.
Mais je comprends pas ça. Ça, c'est de quoi je comprends pas, le gros. Valentina, là, oui, elle a l'une des meilleures techniques de boule que tu vas trouver. Puis oui, elle est super complète. Puis elle, pour une striker pure, elle a des beaux trips, elle a des beaux takedowns, elle a un beau sol, elle a du beau ground and pound. Chris, comment tu veux qu'elle gagne? C'est ce fille-là ne va jamais lancer un coup de poing. Jamais. Elle lead pas. Elle lead pas. Elle est là, puis elle attend. Puis,
contre-attaque, mais elle va...
Pourquoi c'était à chier contre Holly Holm, puis la deuxième fois contre Nunes? Parce que les deux sont arrivés, puis ont dit, moi, je jouerai pas sa game à elle. Je vais la laisser venir. Ça a fait qu'ils ont passé deux rondes à se regarder, parce que Valentina ne leadera pas, puis tu l'auras pas à ce jeu-là.
Non, elle
va juste...
Elle est vraiment
patiente. Continuer de te regarder pendant... Il faut qu'elle te regarde pendant 15 minutes avant de lancer un punch, elle va le faire, tu sais.
Ouais.
Fait que je comprends pas pourquoi l'UFC, semblait...
On a vraiment voulu faire ça.
Disons, ils ont tout fait pour donner une belt à Valentina. Elle a perdu deux fois contre Amanda. Ils ont littéralement... Ils ont ouvert 125 livres. Ils ont amené n'importe quelle petite fille qui n'existe pas à Tuff. Sachant très bien que Valentina allait dropper là, puis genre, faire un meurtre, non, finalement, ils ont réussi à y enlever la belt de sa pauvre fille avec Valentina mettre la main dessus. Ce qui la met en crise, la pauvre fille, mais ce qui est probablement la meilleure affaire qui est arrivée dans sa vie, là, tout pis moi, parce que. Tu sais, quand t'as une fiche de genre 5-2 à MMA Pro, là. Pas sûr que t'as envie que Valentina mette la main sur toi, là.
Non, on peut.
Parce que c'est le combat-là qui faisait chier mal, là.
Ouais.
Priscilla Cachoeira était 8-1, je pense.
Ouch. Mais moi, mon autre question, la MMA féminine, tant qu'elle est là-dedans, parce que souvent, c'est toi qui poses les questions. Puis j'ai envie que tu répondes à ça. C'est que dans ta tête, parce que je sais que c'est ta préférée, tu penses quoi avec Joanna? Tu sais, après trois défaites, mais trois défaites de title shot que tu dis, tu sais, c'est pas comme trois défaites de, tu sais, j'ai perdu contre trois fois contre une fille random, mais ça reste quand même un losing streak de trois. Tu sais, elle, tu penses qu'elle est rendue à faire quoi?
Moi, là, Joanna, là, ce qui me gosse, c'est que ce que j'aimais d'elle quand elle était championne, on dirait que c'est comme... Elle pense pareil à Star qui est plus championne, là ça me gosse parce qu'on dirait qu'elle est délusionnelle à ce fuck, genre.
Ouais, qu'elle pense encore que personne l'a battu.
Ouais, c'est ça, c'est genre. Elle s'est fait knocker par Thug Rose. Ah, oh, il est arrivé de quoi, tu sais.
Ouais.
Mais après, oui, le rematch était serré contre Thug Rose, mais là. Elle est convaincue qu'elle a gagné et qu'elle devrait être championne, pis tout. Là, elle a battu Tisha Torres, que personne ne se rappelle, là, en fait, là. Mais pis.
Ok, ouais, dans
avec,
ma tête, ça, ouais,
avec raison, parce que c'est pas une losing streak de 3, mais c'est, non, un, c'est une victoire, 3 défaites en 4 combats. Là. Puis là, elle arrive contre Valentina, elle se fait littéralement coller à Reims, puis après le combat, elle va quand même nous dire qu'elle pensait qu'elle avait gagné. Genre.
Ouais, c'est
ça. Puis qu'elle veut un rematch, qu'elle n'est pas d'accord avec la décision, puis qu'elle veut un rematch, sinon elle va redescendre à 115 livres, puis elle va attendre son title shot.
Ouais, qui viendra juste.
Contre une fille qui l'a déjà battue deux fois.
Deux fois, ouais, c'est ça.
Fait que genre. Ce qui était genre, tu sais, oh non, je suis la meilleure, je suis la championne, pis tu peux rien faire, pis son attitude, genre un peu coquine même. Ouais, c'était hot quand elle était championne, mais là, c'est qu'elle est plus championne, pis qu'elle vient de se faire, qu'elle vient de perdre trois de ses quatre derniers combats, bien qu'il y a vraiment juste un combat là-dessus quand c'est vraiment fait des calls-ci, pis c'est le knockout.
Ouais,
tu sais, contre Valentina, oui, dès que Valentina closait à distance, pis elle landait un petit trip à la takedown, pis là, elle gagnait ses rounds de même, mais tous les moments qu'il y a eu des échanges prolongés debout, à longue, ça se mettait à mieux en mieux aller pour Joanna dans ce combat-là. Fait que, dans un combat de strike, c'est ça qui est arrivé dans le combat de Muay Thai, c'est que Valentina a toujours gagné. C'est Joanna avait du succès de bout, Valentina a closé à distance, faisait des petits foot trips.
Ouais, c'est ça.
Mais à la colle sur la tête, là, le ref, c'est pareil, il arrivait
là. Là, ça repart, hein, c'est ça.
Fait que c'est de même que Valentina l'a eu, puis c'est de même qu'elle l'a eu à MMA, puis c'est de même qu'elle va probablement l'avoir à chaque colliste de fois qu'ils vont se battre une contre l'autre. Fait qu'ils se rebattront pas une contre l'autre, là, c'est pas compliqué.
Non,
mais.
Ça.
Non, c'est ça qui me gosse par rapport à elle. Là, c'est comme elle a été délusionnelle, là, malheureusement. Là. C'est comme si elle justement elle avait jamais perdu puis t'as jamais rien arrivé. Mais Chris, c'est pas de même, faut que tu vois ça. Là.
Non, non, ça, je veux dire, c'est vraiment pas la façon que les champions font normalement. Là.
Non,
c'est même ceux, tu sais, je comprends d'être cocky, mais même quand t'es cocky, genre, tu sais, sur la face, tu vois que, tu sais, bon là, on va revenir de toute façon. Lord va être content. Tu sais, si tu prends Connor, là.
Yeah.
Ce gars-là, quand il perd, tu le sais qu'il a compris de quoi, right?
Hey, il perd, même contre Khabib, s'est fait tuer, puis il a trouvé le moyen de bien perdre parce que il a essayé d'aller défendre son chum, il a mangé une shot sur la gueule, s'est fait blindside, puis là, tout le monde sont là, c'est Connor, puis
c'est
ça paraît bien quasiment, là, encore.
Mais tu sais, je veux dire, même après le combat, tu sais, je sais pas c'est combien de temps après le combat, quand il a fait son long texte pour expliquer tout, tu sais, qu'est-ce qu'il avait sous-estimé de Khabib, qu'est-ce qu'il aurait fait de différent pis tout, tu dis, ok, le gars au moins il a appris de sa performance. Parce que Joanna, t'as l'impression qu'il a rien appris.
C'est ça, mais... Connor perd bien, c'est ce qui fait le mieux.
Pis c'est...
il a pas le choix. Ouais. Parce que il est vraiment. Ah, il y a du monde qui m'ont capoté, mais il est overrated.
Ben oui.
Tu sais, il est bon. Je suis prêt à dire que skills pour skills, c'est un des meilleurs combattants qu'on a vu en MMA.
Ouais.
Mais il est overrated dans le sens que le monde qui aime Connor et qui pense qu'il n'y a rien d'autre que Connor sur la terre.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, ce monde-là, même après toutes ces défaites-là, n'y voit encore que tu peux. Là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu dis je trippe sur MMA, mais tu trippes juste sur Connor McGregor, c'est comme dire je trippe sur le rap, mais tu trippes juste sur Michael Moore.
Ouais, je sais pas, là, Michael Moore est un peu irrelevant au moment où on se parle. Là.
Mettons en 2014.
Ouais, dans le temps de Thrift Shop. Ouais, absolument, absolument.
Mais de l'autre bord, tu sais, quand, mettons, tu sais, moi, je suis un néophyte en MMA, là, tu sais, je vais checker combat de GSP parce que c'est un gars du coin, pis les combats de Connor parce que, tu sais, comme j'ai dit, moi, je suis un gars de personnage, je suis un gars de caractère.
Ah, c'est une grosse gimmick.
C'est le seul gars que je vais checker toutes ses conférences de presse parce que il a tellement la répartie, il est capable de fermer la gueule à n'importe qui.
Plus naturel que une grosse partie des lutteurs, là.
Ouais, cool, ouais, vraiment.
C'est... Tu sais, là, juste son « Who the fuck is this guy », là.
Ouais, ça, c'est...
C'est incroyable. C'est un des
les plus magiques, ouais. Là. Ever, là.
Ouais, il y a do fucking nothing,
ah.
Puis... Ah, ouais!
Il y a do fucking nothing!
En lançant des bouteilles, là. Ouais, ouais, gros, tu parles de ça, puis justement, man, j'aimerais ça avoir ta perspective sur ce qui est arrivé au dernier corner de combat, de corner de combat, le dernier combat de corner contre Khabib. Il y aura un brawl après, puis tout. Puis il y aura un brawl, en gros, parce que, tu sais, le monde qui se bat contre Conor, on s'entend que le UFC, il y a un petit aspect de WWE à ça, là.
Veux. Ben oui.
Puis c'est comme, c'est un peu une règle non écrite entre les combattants, que Conor va absolument, tu sais, c'est un expert, là, pour trouver l'affaire qui va piquer son, ouais, adversaire, puis qui va le faire chier. Puis lui, il s'aide de tout ça, mais même... que si ça fait chier son adversaire, même si c'est ça qu'il joue dans la tête, qui fait qu'il perd le combat contre Conor,
ouais,
après le combat, généralement, du moins dans l'aftermath immédiat puis à la conférence de presse, les deux, tu sais, ils serrent la main puis ils font la paix, puis c'est everything's all good, parce que au final, les deux vont recevoir un esti de beau chèque, puis c'est à cause que Conor dit toute cette merde-là, ouais, principalement. Mais Khabib est de ceux dans la vie qui a juste comme, il a pas compris ça, parce que lui, il vient de complètement ailleurs, il vient d'une estie de région éloignée, c'est un gars super religieux, super, tu sais.
Ouais.
Puis on s'entend, on rentrera pas là, dans ça, ouais, parce que... Non,
mais...
c'est ça, écoute, si tu verrais photo de mariage à Khabib, là, ça blonde, là, tu le sais même pas qu'elle est là, parce que gros, elle est voilée au complet, là, dans une affaire blanche, t'en vois pas,
ouais,
gros, elle a la même couleur que la nappe, si tu sais même pas qu'elle est là, là. Ouais. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est un gars ultra pratiquant, ultra croyant, il a pas compris que c'est une joke. Puis lui, quand le combat a fini, puis que l'arbitre l'a enlevé du corner, ouais,
c'était pas fini
pour lui. Ouais. Là, lui, là, il essayait de pogner toutes ces calices de gars-là, puis toutes les chums de ce gars-là que Conor avait insulté, aussi essayait de sauter dans la cage pour eux aussi aller se venger. Que...
Ben écoute,
quand tu réagis, moi, qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, mettons, Conor, tu sais, comme j'ai dit, je l'adore, c'est un showman, il est incroyable, puis je me cacherai pas, j'espère qu'un jour, il va signer, il va faire de la lutte professionnelle. J'y souhaite rendu là qu'il y ait à la All Elite Wrestling, parce que d'après moi, d'ailleurs, le copropriétaire des Jaguars à Jacksonville, il a débloqué 100 millions là-dedans. Fait qu'attendez-vous à quoi qu'il va compétitionner là-haut, là. Puis en plus, avec le talent qu'ils vont avoir. Puis, comment que je peux te dire? J'ai une affaire que j'ai eu de la misère avec ça. Puis, c'est quand qu'il a attaqué, dans le fond, sa religion. Parce que moi, je respecte n'importe quelle religion. Tant que tout le monde peut vivre en paix, ça paraît pas, mais j'suis un gars de paix dans la vie. Puis, mais c'est juste ça que j'ai eu de la misère. Mais sinon, à part de ça, le brawl après ça, puis tout, tu sais, c'était. Tu sais, c'est comme tu dis, Khabib, il vient pas de notre monde à nous autres. Puis lui, il a vu ça comme une attaque personnelle.
Ouais.
Je comprends, de l'autre part, je comprends totalement Khabib, qu'est-ce qu'il a fait. C'est. Je comprends. Est-ce que j'approuve? Non. Est-ce que je trouve que ça a donné un maudit bon show? Oui. Est-ce que je vais acheter le prochain pay-per-view? Oui, de Khabib contre Conor si ça arrive, parce que... Le build-up va être... Déjà, le build-up était solide, là. Il y a pitching.
Ouais, ils vont avoir un build-up de fou, parce que... Ils vont réussir à vendre le combat sur ce qui s'est passé, puis à faire oublier aux gens à quel point c'était pas un bon combat. Mais tu sais, c'est un bon combat, mais juste d'un bord.
Tu sais, mettons, dans la lutte...
C'est un massacre, ouais, là. Et ça n'a jamais été compétitif. C'est
Conor qui se fait dropper par un
lutteur. C'est ça, tu dis, c'est le striker contre le lutteur, mais c'est le lutteur qui a complètement droppé l'autre. Là.
Mais de l'autre bord.
Ça va se passer encore, puis regarde, ça peut être intéressant.
Tu sais, dans la lutte, là, quand vous checkez ça, c'est rare des build-up, on va dire, sur un an, comme genre The Rock, John Cena. Ouais. Tu sais, là, eux autres, là, mettons, on recule, c'est l'affaire du boss, là, c'est arrivé, je pense, c'est avril-mai, hein. Une affaire de
c'est, ouais, c'est celui-ci
223,
ouais, c'est dans
okay.
Ce coin-là.
Fait que là, ça va faire un an en mai, ils ont tellement brassé de chenoutes, puis en même temps, ils vont préparer le 2, parce que Dana White, qui est pas cave, il va faire du cash, Khabib va faire du cash, imaginez le build-up, d'après moi, là, tu pourrais remplir...
Ils vont tellement vendre, puis tu sais, mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que tu sais, au-delà du build-up, il va y avoir un combat, puis le combat, moi, je me demande, tu sais, c'est quoi qu'il
faut? Faut que Conor
gagne. Ça, je vous le laisse pour ça, parce que moi, je ne suis pas expert là-dedans.
Faut que Conor gagne avant d'aller se battre contre Khabib,
Mais mettons que
parce que Connor a beau bien perdre, mais va rester qu'au final, il va avoir headliné, genre, mettons, les 4 pay-per-views qui vont être le plus vendus dans toute l'histoire du UFC, puis 3 d'entre eux vont être des défaites.
Ouais, c'est
fait qu'à un moment donné, faut qu'il gagne ce style-là. Si, ouais. T'as pas le choix, le gros. Ouais. Chael Sonnen, un moment donné, tout le monde a pris Chael Sonnen pour ce que Chael Sonnen était. C'est-à-dire, un gars qui arrête pas de dire de la merde, mais qui est pas si bon que ça.
Ouais, c'est ça.
Il faut pas que ça devienne à Connor, game, ouais. Surtout qu'il rajeunit pas. Puis ouais. À MMA, on
sait que c'est... qu'il reste beaucoup de combats, non plus.
Non, pas nécessairement, c'est ça. Mais tu sais, juste le gros, faire la trilogie avec Nate, parce que Dieu sait que Nate va se pointer pour rien d'autre qu'un combat contre Connor.
Ouais, c'est ça.
Dieu sait que ça va être encore une décision serrée, ouais. Probablement, Connor qu'ils vont absolument donner à Connor pour le bien, genre, de...
parce pour que, le bien de la business.
Ouais, Nate's only count to five.
Ouais, c'est ça, pis t'sais, des fois, il est un petit chalote à Jean-Claude, là, des fois, les conspirations, un peu, là, les fixed fights, ces affaires-là.
Ouais.
Pis moi, j'ai mon belief qu'il y a littéralement aucun fixed fight à MMA fin, à la base, mais, t'sais, le gros, les juges pis tout, t'as comme, c'est un round fucking serré, à qui tu le donnes, tout le monde a déjà un bias avant le début du combat, man.
Ben oui, je veux dire,
c'est ça qui va arriver, man, dans un...
John Jones, Gus 1, c'était ça.
Ben oui.
Gus a
gagné. Gustafsson a gagné presque tout le troisième round, mais a mangé une grosse shot puis il a perdu la dernière minute et demie du round. Fait que là, tout le monde a donné le round à John Jones presque. Ouais. Ce round-là, selon moi, oui, il était peut-être à Gustafsson.
À la limite, c'est le même que ta réputation qui tue. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est, mettons, ça se passe. Connor, Habib 2. Si t'es Connor, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? C'est quoi que tu peux faire de différent, dire moi j'ai mon idée là-dessus, mais c'est peut-être pas pantoute une bonne idée. Fait que
vas-y, ça m'intéresse.
Ben moi je pense que tu sais, il va se faire out-wrestle toujours par Habib. Puis là il s'est même fait out-strike parce qu'il était trop patient, parce qu'il avait trop peur de Habib. Fait que je pense que la seule façon qu'il peut le battre, je pense que c'est la seule façon que tu peux vraiment battre Habib, c'est en étant à l'autre. Je pense qu'il faut que t'attaques, puis tu dises, regarde, il va se passer ce qui se passe. Regarde Raging Hall, tu sais, Mané, il a fait garde. Pas le choix, Michael Johnson, même au début de leur combat, avant qu'il se fasse démolir, là, au début il était comme. Kim, il connectait en salle sur la puissance à Connor.
L'affaire, c'est que Connor va toujours être trop intelligent pour être Michael Johnson.
C'est
peu importe ce que Connor va faire. Parce que si Michael Johnson s'est juste battu de même parce que c'est un dummy,
c'est
probablement la meilleure façon, de se battre contre Khabib, c'est de s'encolisser, de tout donner ce que t'as. Des 30 premières secondes du combat, parce que quand il a mis la main
sur toi, ça Connor, c'est ça que je ferais, parce que c'est pas vrai que tu vas le battre sur un duel technique, surtout que Khabib a sorti des skills de strike que j'y connaissais pas. Tu sais, ce sera jamais un elite striker, rien, mais tu vois qu'il se débrouille quand même un peu s'il se force. Là. Mais c'est pas juste ça, c'est Connor, c'est qui je trouve que. Pourtant, je suis pas un grand connaisseur, mais Connor, je trouve que il y a un smoke and mirror avec ce gars-là, parce que quand tu le vois se battre, souvent j'entends le monde dire ah, Connor, il est drôle, il a un style, il est pas full comme pose, tout. Je suis comme, non, c'est le gars le plus. Il donne l'impression d'être crissement fou. Il donne l'impression d'être Clay Guida, genre. Mais en vrai, il est compose à ce fuck. Il y a aucun mouvement qui fait qu'il est dangereux pour lui, là. Tu sais, il va jamais se mettre en danger. Mais il donne l'impression que tu dis, oh mon dieu, la façon qu'il se bat, c'est spectaculaire, tout peut arriver. Pas en tout, parce qu'il va lancer des kicks quand t'es à 10 pieds de distance.
Ouais.
Pis là, tu il a essayé un kick, mais genre jamais
il a fait ça. Tu fais à ses jambes, pis c'est genre le punch le plus simple.
Ouais, c'est ça.
Toute l'humanité qui arrive, c'est un asti de left cross.
Ouais, c'est ça.
À plein milieu. Genre.
C'est ça, mais avant, il va t'en donner.
À straight left ou left cross,
c'est ça. Tu sais, il donne l'impression qu'il y a Anthony Pettis, mais en vrai, tu sais, c'est compose as fuck son affaire.
Ouais, c'est même pas vraiment un bon kicker.
Il peut pas toujours être compose comme ça contre Habib, parce que ça marchera pas.
Pis non, pis c'est ça, son plan, c'était de weather the storm pour les premiers rounds, en pensant que Khabib allait gazer, pis c'est pas, tu peux pas, tout le monde le dit, que ça Connor va le knocker en 30 secondes, ou il va se faire détruire, tout le monde pensait ça, après les 30 premières secondes, je pense que le consensus de tout le monde qui écoutait ça, c'était genre, bon, ben je pense qu'on est en train de voir Connor qui va se faire péter la gueule, pis la seule affaire qu'on savait pas à ce moment-là, c'est combien de temps Khabib allait décider de jouer avec.
Ouais, c'est ça.
Pis il pourrait vous laisser faire mal pour pas trop jouer avec longtemps.
Ouais, puis quand il l'a pogné dans l'espèce de neck crank.
Ouais, le choke, le choke, il lâchait pas, là.
Ouais.
Moi, je vous le dis, là, genre, Herb Dean, tu sais, genre, c'est le choke qui est appliqué de même,
ouais.
Là. Ça, tu viens fermé dans la main, puis c'est ça que tu viens barrer dans le dos. Dans le fond, c'est un levier, là.
Ouais.
Avec ton épaule, tu barres ça dans le dos, ça. faire mal. Que tu l'ailles en dessous du cou, ça choke.
Ouais.
Ou que tu l'ailles sur le neck.
Ouais.
Ça, dans le sur le menton, ça choke.
Ouais.
Herb Dean, tu sais, mettons t'as la grippe d'Heim, la manière de péter cette grippe-là, c'est de venir ici. Comme ça.
Ok.
Ici, comme ça. Ouais. Parce que c'est une si bonne grippe d'Heim, c'est une si bonne grippe. Fait que faut que tu viennes la péter.
Ouais.
Faut que tu viennes. Puis Herb Dean, quand il a intervenu, sa main est tout de suite
allée pour
direct, là. La première affaire qu'il a faite en arrêtant le combat, là, le move qu'il a fait pour arrêter le combat, c'est de briser la grippe à Khabib. Parce que lui, c'est un arbitre super expérimenté, je suis sûr qu'il l'a vu que ça lâchait pas ça. Puis c'est pas de quoi être quoi qui allait vraiment l'endormir, fait qu'il allait juste genre lui péter de quoi, casser le bas de la face. Là.
Ouais, Khabib est assez ça.
C'est un malade.
Ça, c'est un bon insight parce que tu vois, ça, je l'avais pas. Ouais. Jamais quelqu'un comme moi qui était un casual, qui j'avais remarqué que.
Il est allé straight for the grip, mon gars, parce que ça lâchait pas ça. Puis, tu sais, mon coach Fred, il m'a dit littéralement la même affaire. Là. C'est ça qu'il avait noté lui tout comme détail le lendemain. Fait que, voilà, tout le monde qui ont l'œil averti à ça, on s'en venait avec la même conclusion. Puis, la manière qu'il a réagi après, ça a pas été long, même. Puis, que ce soit Dylan Danis qui a causé tout ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Est-ce Dylan Danis? Mais ouais. Ça, c'est un esti d'événement, mais, tu sais, autant tout le monde était là le lendemain à capoter comme quoi c'était, oh mon dieu, c'est la pire affaire qui est arrivée. Pour le sport du sport, je peux pas craindre qu'on a l'air de ça, c'est la pire affaire.
Non!
Genre, Connor a quand même l'air moins cave qu'il a eu l'air s'il s'était juste fait soumettre de même, pis là, qu'il avait loupé, pis là, il avait reçu sa belle, pis c'était la fin.
Tout le monde a acheté le gala, pourquoi?
Ça, pour voir Connor se faire laver, se faire soumettre comme une merde, pendant qu'il pose ta. Entre tout pis moi, tu vas jamais briser une grippe d'un choke si tes deux mains sont en train de poser à terre. Fait que c'est un choke qui défendait pas, il défendait pas ce choke-là. Même quand il l'a pris, il a laissé deux mains poser à terre. Fait que c'est un choke qui allait pas être défendu. Là. Fait que, tu sais. Bref, tout ça pour dire que c'est ça. C'est sûrement la plus grosse affaire que le monde est. C'est de quoi à Alice Connors, je peux pas croire, c'est une brown belt, ce gars-là. Des fois, les réactions qu'il y a au sol, pis tout. Pis autant que, tu sais, contre Diaz, la première fois, c'est allé au sol, il a sorti quand même un beau sweep pour réussir à se remonter ses pieds. Tu sais, des belles affaires que faut que tu connaisses quand même le Jew pour ça. Que des fois, c'est genre des réactions que.
Ouais, c'est.
Tu sais, il me fait penser à une blue belt, là, moi, pour être franc avec toi.
Ouais.
C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais qui, à tout bout de champ, va faire un esti de move de cave.
Ouais,
là, genre, OK, il va faire un esti de move de cave. Fait que, c'est sûr, il me fait penser à ça un peu. Mais lui, il a l'air moins cave après cet événement-là, à cause de tout ce qui est arrivé après. Khabib, le gros Khabib, a l'air littéralement du gangster ultime de l'histoire de l'humanité. C'est genre, moi, j'ai voulu tuer lui quand l'arbitre m'a empêché. J'étais allé popper à cage pour sauter à pieds joints sur Dylan Danis pendant qu'il y a un paquet de russes qui ont jumpé à cage pour aller blind shot. Tu sais, ils ont l'air d'une clique de complète sueur. Puis, toute sa réaction par après ça, tu sais, ses médias sociaux, de prendre des photos avec sa clique, pis genre de lâcher des petits calls inside comme quoi, genre, qui s'en colle, c'est
no regrets,
no regrets à l'autre, pis
t'as eu montré. Il a montré vidéo après de même ce qui s'est passé dans le stade après, tu sais, après les
gars. Et puis après
les gars. Ils sont allés dans le couloir, pis c'était juste des petits Irlandais sous qui se faisaient.
Ouais, t'as littéralement, le gros là, t'as littéralement 15 Irlandais pour chaque Russe, pis c'est genre, ils prennent des tours à se faire
knocker. C'est ça, tu sais, il y a des vidéos, c'est comme 4 Russes au milieu, pis ils se font attaquer par une
bande
de petits roux. Puis il est
démoliste. Parce que c'est quoi le trait en commun que les Irish ont à part être roux?
Ils sont chauds.
C'est quoi que toutes les gens comme Khabib ont en commun? C'est qu'ils prennent aucune drogue puis aucun alcool parce que c'est des musulmans over dédiés fucked up qui luttent probablement avec des ours depuis qu'ils sont nés. Ça fait un esti de gang, tu sais, genre un milliard d'Irlandais sous braque, des astuces de machines de guerre que t'es fait chier sûrement, parce que les Russes devaient être contents, puis oui, il y a peut-être, tu sais, j'ai sûrement des Russes qui ont lâché des petits calls à des Irlandais, mais il y a sûrement beaucoup d'Irlandais qui ont envoyé chier des Russes aussi. Fait que, genre, c'était une boucherie et tout, là, tu sais, c'est un L all the way pour
t'sais, le prochain combat, c'est sûr qu'il va se passer, la sécurité va être incroyable.
Ça va me faire penser, c'est un combat de Mike Tyson. Je me souviens plus contre qui, mais t'sais, Tyson, c'est un autre brûlé dans le temps. Puis pour builder ça encore plus dans le ring, ils ont pris des gardes de sécurité qui faisaient tout le ring d'un coin à l'autre pour pas que les deux, pendant l'introduction, ils commencent à se battre.
Ça ajoute tellement.
Le pire, c'est que ce combat-là, t'as genre l'entourage proche, genre, de Khabib, là, genre son gérant, puis tout ce monde-là, puis l'entourage proche de Conor, qui était pas des cornermen,
ouais,
ont pas pu être dans l'aréna pour voir ce combat-là. À cause de ça, il était dans l'aréna, mais dans des locker rooms, à checker ça sur des TV opposés, il pouvait pas être Octagon side pour ce combat-là. Exactement pour cette raison-là.
Rendu là, là, mettons, j'amène la théorie, parce qu'on va se le dire, Khabib, Conor, ça va pas juste brasser dans l'octogone, ça va pas juste brasser dans les conférences de presse, ça va brasser dans l'aréna.
Ouais. Si tu veux vraiment créer, là, mais ils feront jamais ça, parce que ce serait à la fois la chose la plus UFC puis la plus con ever, là. Fais le combat à Londres. C'est fini, là. Fais le combat au Wembley à Londres, là. Genre, tu viens, genre... Si tu penses que les attentats terroristes, c'est bad, t'auras jamais vu quoi sauter de même.
Ça va être à feu et à sang.
ça serait incroyable, pour vrai. Si tu sens en plus l'historique de Russes en Angleterre, tu sais, pendant la Coupe du Monde, ça, ils ont failli bannir les deux équipes parce que leurs fans se battaient trop. Pis tout. Ce serait... Pour vrai, moi, je dis fais ça à longue. Pis, de toute façon,
rendu là,
si quelque chose saute, son loin. Rendu là, ça m'atteindra pas. Là.
Rendu là, ça c'est une idée de. C'est... Moi j'ai deux options. Rendu là, si t'es sûr que tu veux pas avoir de beef, tu fais un empty arena match.
C'est stupide, mais.
Il y a des games de soccer qui ont fait ça.
C'est la seule manière qui arrive à dire gros. La base va se poser de quoi. Parce qu'ils ont pris, t'sais. La conférence de presse, justement, qui était absolument horrible, là, on s'entend, là, que les affaires que Conor a dit à
cette
conférence-là, c'était horrible, là. C'est littéralement à cause de ça, probablement, que tout ça est arrivé. Mais, la première affaire qui a chiolé, c'est qu'il n'y avait pas de fans, puis on faisait ça pour les fans, Gros, il était pas là à cause de ça, man. Il s'est dit. Ouais. Le UFC ont pris, genre, les précautions pour pas que ce match-là arrive, c'est arrivé pareil. Mais, gros, c'est que. Tu sais, on s'entend qu'il. Tu sais, justement, toi, t'es du chômage, là. Va lire, genre, des articles un peu obscurs, là, sur, genre, Conor McGregor, les gens qui fréquentent en Irlande. Va lire des articles sur Khabib. Tu sais, ça que Khabib vient d'une place que... c'est le leader de la Tchétchénie, le Ramzan Kadyrov, là, comme année, il est débarqué là, puis il a décidé que lui, il finançait ce gym-là, là. C'est son père à Khabib qui a ce gym-là. C'est quoi, tu dis non pis toute ta famille se fait tuer? Ou tu dis oui, t'es pas bien content parce que Kadyrov d'impact, mais il te donne de l'argent, mais t'es obligé de traîner avec lui publiquement. Fait que lui, Khabib, là, fait que ça se sont rendu compte que c'était probablement la personne qui avait le talent pour être le premier grand champion russe pis tout. Toute l'esti de crime organisé pis la racaille de russe, là, qui sont quand même de la racaille de très haut niveau, là, on s'entend, les Russes, c'est pas des petits gangsters, là, c'est du tabarnak de monde terrifiant as fuck, là.
Ouais, ça, ben, je veux dire, la mafia russe, tu veux pas niaiser.
Non, c'est ça. Tout ce monde-là sont affiliés avec Khabib pis avec son gym, parce que c'est ça qui roule le MMA en Russie. Toutes les fédérations de MMA en Russie sont financées par quelques hommes très puissants, dont un qui était le co-owner du gym, qui s'est fait coller en tôle parce qu'il a fraudé... Je te colle ça en tôle par Poutine parce qu'il a fraudé pour je sais pas combien de milliards l'État pis tout. Pis depuis ce temps-là, gros, des shows d'MMA en Russie, là, il y en a moins, le gros. C'est pas... Il y a juste ceux à Kadyrov là, qui roulent cette année.
C'est pas Connor qui, comme la mafia irlandaise, compte lui. Ben, il se faisait courir après par une mafia quelconque.
Ouais, ben c'est ça, parce qu'il en a gelé un dans un bar, là, pis c'est cette histoire-là. Mais il y a plein de personnes, de gangsters irlandais assez connus qui s'est déjà fait voir, tu sais, à dîner avec eux, à traîner avec eux dans des bars, des affaires de même. Ben, c'est un gars de Dublin qui est pas né de grand-chose, là, avec le gars qui pense. Avec qui traînait quand il était jeune pour se retrouver combattant à MMA.
Ouais, surtout dans ce monde-là, tu sais, mettons, je donne un exemple, là, c'est... Tu sais, comment je peux te dire ça? C'est, tu sais, mettons, ici, on en a des fois des personnalités au Québec, là, pis t'as pas besoin d'aller ben, ben loin, là, ils prennent des photos avec du monde du crime organisé. Ouais. Tu sais, c'est. Ça vient. Comment que je peux te dire?
Pis même, c'est quoi que j'essaie, man, l'autre jour, qui était. T'as pendant le temps des fêtes, je pense que c'était une reprise d'une hostie d'émission au 98.5. Mais justement, il y avait Claude Poirier, puis il parlait d'un des mariages des gars des Hells, qui avait littéralement Jean-Pierre Ferland qui avait chanté là.
Ginette
était là, Charlebois était là, tout le monde était là, le groupe. C'est comme un des mariages des criminels les plus notoires du Québec, puis tout. Fait que, tu sais, c'est les sportifs, les vedettes, puis le crime organisé.
Tout ensemble.
Ça se tient tout ensemble, mais c'est le monde riche dans la société.
Ben oui.
Il plot de l'argent pour la peau dans le sang.
Regarde qui est assis avec qui.
Tu me dis que Conor McGregor, il a pas sniffé un trou de poudre dans l'avion, man, avant d'aller se lancer des affaires. Tu sais, entre vous pis moi, là. Pis la boîte à roule, yo.
La boîte à roule. Je
pense pas que Conor, il a des tempéraments et tout le cul qui fait de la peau. J'entends des fois, là. Fait que tu dis ça de même, mais pas rien que John Jones, vraiment. Sauf que John Jones, c'est le seul qui. Pour en revenir à lui encore une fois, qui est assez cave pour toujours se faire prendre. Ouais, peut-être pas toujours, mais souvent.
Ouais, ouais.
C'est comme plus souvent qu'à son tour. C'est comme le chum cave dans la gang qui va finir par aller faire 3 mois de taux, le sti, parce qu'il y a trop de possessions simples, le sti d'affaires de même. Là. Parce que le cave, à chaque fois, sti, qui décide de fumer son joint, il va faire ça dans son char, toutes les fenêtres fermées, dans le parking du Walmart à 5h le soir. Là.
Ouais, c'est ça, tu sais.
Mais comme, ça demande que ça tout à côté.
Il y a ton chum intelligent, il y a ton chum John Jones qui se fait tout le temps pogner, pis il y a ton chum Chuck qui se fait pogner à faire de la poudre pendant un gala du UFC.
Mec, tu y en veux pas parce qu'il a vécu des traumatismes pis il a plus toute sa tête, genre.
Ouais, c'est ça. Pis il se bat encore.
Non, mais malheureusement, c'est ça, c'était un des événements les plus tristes de l'année.
Hey, juste pour le fun, là. Passe coq à l'âme. Kenny Omega, il est au Royal Rumble, il est pas là.
Mais non.
Ah, pourquoi pas? Ça fuckerait tellement toute la patente d'AEW, ça serait tellement drôle.
Ben, tu sais...
Hey, c'est bon qu'on parle, genre, 1h30 dans le podcast, mais c'est bon, on pensait là-dessus, le Royal Rumble, là. Comme je disais tout à l'heure, c'est le moment de lutte le plus appréciable de l'année, là.
Ouais, moi, je trouve que oui.
Sans aucun doute, là. Ouais. C'est là que, genre, tout le monde que tu t'attends
c'est,
pas...
C'est ça le moment de l'année que tu peux avoir des surprises, au final, là.
Ouais, exactement.
C'est ça le moment de l'année que c'est un mélange de nostalgie, de moi qui compte des entrants,
tu calles rien, toi.
Cette année, l'année passée, sont venus. Non, on était ici, puis j'ai fini par caler plein de monde random en vague. Ouais, non, c'était ici.
Ouais, l'année passée, c'était ici. C'était ici l'année passée.
L'autre année d'avant, c'était chez
eux. Ouais, c'est ça. Ouais, toi, chez Lord, c'est l'année que Roman Reigns est arrivé 30e après avoir perdu sur le premier combat de la soirée.
Oui, pis qu'il s'est fait sortir par Triple H.
Oh, la déception, man.
C'était tellement bizarre. La fois que Randy a gagné.
La fois qu'on a réussi à être plus pisse que quelqu'un, genre Enzo qui arrive 27e, on est genre masterpiece, pis pour une raison ou une autre, ils ont réussi à topper ça, là. On a réussi à être plus déçu qu'Enzo Amore au 27e rang. Mais là, c'est qui le cap qui rentre 30e cette année, là, déjà, là?
C'est R-Truth, je pense. Mais là, ils ont l'air d'avoir fucké ça.
Ils ont gagné le mix. J'espère.
Parce qu'en gros, ils ont gagné le mix. Mix, je sais pas trop quoi, là. Mix
Robert, Challenge. Robert la vérité,
mix Challenge. Robert la vérité. Mais, ouais, c'est ça. Puis il était supposé rentrer dernier du Rumble. Mais là, ça a l'air. Ils ont l'air à changer ça, man. Ils ont collé un Audible, là, ils ont fait genre. Parce que, dans le fond, ce qui s'est passé avec le Mix Match Challenge, c'est que, genre, tout le monde s'est blessé.
Fait que
tous les gagnants
pas gagné.
Fait que là, on va faire un comedy relief. Puis finalement, leur prix, c'était genre que. Je pense qu'ils ont genre gagné un voyage.
Mais l'année. Mais attends,
c'est n'importe quoi. Là, il y a Carly qui s'en allait, genre headquarter.
Tu sais, là, tu vas signer tes contrats. Puis sûrement cacher tes chèques. Pourquoi tu. Ah, c'était. Il aurait pu te dire, genre. Ok, mettons Booking 101 ou genre promo 101.
Il aurait pas dit de quoi d'intelligent, c'est R-Truth.
Ah, bon point.
100% de sa gimmick des trucs.
Ouais, c'est peut-être un
épée. Lui, je l'ai. Même à TNA dans le temps, je l'ai. Ça, c'est un gars que personnellement, j'ai jamais été capable. Je comprends pas pourquoi il est encore là.
C'est un
gimmick
avec ça, je le trouve drôle. C'est un bon comedy relief, je trouve, mais. C'est rien
de oui, littéralement à chier, on parlera pas d'Artruth. Fait que là, c'est qui est surprise au Rumble n'étant pas Artruth. Fait que la vidéo est finie. Fait qu'on va finir le reste audio.
Good.
Bon,
good.
Mais ouais, fait que. C'est qui, là?
Moi, je t'ai dit.
Molly Holly, gros, elle est de retour.
L'année passée, juste pour le record, j'avais collé Jacqueline, Molly Holly, puis Ivory. Puis probablement un autre personnage random. Puis ils sont tous pointés, les
talents. Les trois.
Ouais, il était tout là, le gros, c'était 100%.
C'est incroyable. Pour vrai, j'avais un gros success rate l'année passée.
Mais cette année, honnêtement, je vois pas les surprises, mettons, sur le Rumble sur le Rumble des gars. Il y a une surprise que tu peux avoir, c'est Kenny Omega. Puis le reste, ça va être des old-timers. Genre, ça m'étonnerait pas
de voir
ça.
Ça va là, Kenny Omega.
Hey.
Ça fait 10 ans qu'on dit
que
Kenny Omega.
Non, mais
justement, c'est le bande, toi, à peine, un moment donné.
C'est tellement été teasé depuis 4 ans. 1. 2, le gars, là, c'est peut-être moi qui embarque trop dans les théories de la conspiration pis tout, mais...
Shout-out Jean-Claude.
Shout-out Jean-Claude.
Shout-out Jean-Claude.
Pis, mais, il était pas là, dans le fond, au lancement d'All Elite Wrestling. Avec, il y avait Hangman Page, il y avait Brandy Rhodes, il y avait Cody, pis il y avait Young Bucks. Il était pas là. Il a pris une photo le soir de Wrestle Kingdom avec, c'était...
T'as-tu Kenny. Fait Wrestle Kingdom?
Ouais, il était là, il faisait le main event contre Tanahashi, qui ont sorti
un il a droppé à belt.
Il a droppé à belt en plus. Ouais. C'est sûr qu'il devait, dans le fond, c'était pas compliqué. T'avais deux options à Wrestle Kingdom. C'est soit qu'Omega droppe la belt pour aller à All Elite ou à eux, ou que, dans le fond, il gardait la belt.
Ou ça annonce direct.
Non, dans le fond, qu'eux autres font le lendemain, ils annoncent un partenariat avec New Japan. Mm. Mais encore là, ton problème, c'est que t'as déjà un partenariat avec... ROH, New Japan, CMLL. Puis ça, encore là, je pense pas qu'ROH aurait trippé parce qu'All Elite Wrestling va être un compétiteur direct de deux fédérations aux États-Unis, la WWE. Je compte même pas à TNA. Puis aussi. La zone est
back. Back maintenant.
Puis. La ROH. Ouais. Mais rendu là, oubliez pas, Kenny a eu des rumeurs qu'il y avait un contrat lucratif entre 3,5 millions et 3,9. Puis il y a une affaire aussi, c'est parce que s'il s'en va à All Elite Wrestling, le gars, il commence à être vieux, il s'est défoncé pendant 4 ans.
C'est là que je veux en venir. Moi, on a beau dire, ah, ça s'est jamais passé au méga, moi, ma question, c'est pourquoi il le ferait pas? Pourquoi lui? Parce qu'on s'entend qu'All Elite Wrestling, là, on a beau dire, ça va être bon, ils ont 4 lutteurs. Puis c'est pas des lutteurs qui sont tant que ça, tu sais, sont bons. Mais ils sont pas si mainstream que ça. Ça va prendre quelques années. Tu sais, ça va peut-être super bien marcher. Puis surtout que la WWE s'est rendu de la crap, on sait tout. Fait que ça risque de marcher. Mais le temps que ça marche, est-ce que Kenny Omega va encore être dans les années qu'on peut dire les gens regardent ses combats classiques ou on va dire ah ouais, lui, il a build la fédération, puis maintenant il est fini. Tandis que là, il a la chance d'aller, tu sais, bon, la WWE, c'est ce que c'est, là, je veux dire.
Mais ils vont-tu le rendre de la merde? C'est ça, le problème.
Mais tu sais, ils ont pas rendu AJ Styles de la merde, quand même. Là.
Moi, ouais, c'est vrai, ça.
Moi, je pense que, tu sais, ce que je ferais avec eux, c'est... Tu sais, le pitch de vente, c'est...
un des seuls qui ont pas rendu de la merde, non, là, par exemple. Ouais, parce que Takamo et Finn Balor, c'est un petit bon worker, ouais. Ça va nulle part, t'sais. Nombre de gars, tu sais, Drew McIntyre, ça les a pris deux fois.
Ouais, c'est ça.
Dolph, il a aucune... Je sais que je suis peut-être pas un grand fan de Dolph, mais Dolph, popé, pis ils ont jamais su quoi coller avec. Pis t'sais, des fois j'ai l'impression, même t'sais, oui, j'adore Braun, là, il est sacoche.
Ouais.
100% épique. Ils savent pas trop quoi faire. C'est pas un bon worker tant que ça. Pis même s'ils savent pas trop quoi faire, ils ont l'air de s'aligner vers que ça soit probablement à lui le next big thing avec Roman s'il crève pas.
Parce que rendu là, là. Calice.
Calice.
Mettons de l'autre bord, là. C'est parce que tu check, mettons, là, mettons les gars qui pourraient potentiellement battre Brock Lesnar. T'as Seth Rollins, t'as Braun, qui, mettons, qui après un chasing de 2 ans finit par le battre. Puis de l'autre bord.
Pas un chasing de 2 ans, non, ça en fait juste ça.
Ouais.
Ils battent là. Décoller, si elle se bat contre Daniel Cormier, il donne son money fight, que Daniel puisse se coller son cadre de là sans se rebattre contre l'autre girafe. Puis, Mais bref, on rentre pas là-dedans.
Puis l'autre, c'est Kenny Omega en ce moment. Le gars a tellement de. Tu sais, mettons, tu vas voir un gars de la. Mettons, un fan de la E.
Mais la WWE, vont-tu faire ça ou donner un win à Omega contre Lesnar?
Mais non.
Avant John Styles ou Bryan ou.
Ben de l'autre bord, why
même
not?
Si ça fait pas de sens.
Ben attends, mettons...
Non, mais le gars est pas bien plus gros qu'eux non plus, en termes de...
Mais le gars, honnêtement, moi personnellement, c'est le meilleur lutteur au monde en ce moment. Il est capable de tout faire.
Mais parce qu'il a la chance de montrer ça.
Ouais, mais...
Chose que Styles pis Bryan non plus.
Ouais, non, c'est
pis Rollins pis Kevin Owens, le gros, pis...
Ouais, mais...
C'est Sami Zayn, le gros, il y en a bien un, là. Mais
c'est ça de l'autre bord, mais oubliez pas une affaire. Quand, mettons, que Kevin Owens il a signé, checker quand Sami Zayn il a signé, il était pas au top comme Kenny Omega. En ce moment, Kenny Omega est leader, il a été longtemps leader du Bullet Club. Il a été longtemps, dans le fond, il a longtemps été un gros nom. Depuis 3-4 ans, c'est un très bon lutteur au Japon, il est incroyable.
C'est un des seuls gars qui peut dire qu'il est probablement des lutteurs les plus populaires sur la planète sans jamais avoir eu comme...
Ouais, mais tu sais à quel point... Un des plus populaires, tu sais. Il est vraiment populaire, mais je veux dire, il est populaire pour ceux qui suivent ce qui se passe au CND, ce qui est une minorité de gens quand même.
Ben, moi, je te dirais par contre, tu sais, là, c'est sûr, moi, je suis biaisé parce que je suis dans ce monde-là.
Ouais, c'est ça.
Mais je suis pas mal sûr, mettons, que tu dis à quelqu'un qui fait juste suivre la E, mettons. Tu sais, tu lui nommes des noms, là, mettons, tu vas y sortir, je sais pas, au moins, les Young Bucks, Evil Uno.
Ouais, ils savent c'est qui.
Ils savent c'est qui, mais tu vas leur dire Kenny Omega. Ah, j'ai vu des combats sur YouTube.
Ouais, t'sais, non, c'est ça, tout le monde connaît Kenny Omega, mais est-ce que le monde le connaisse au point de dire « Ouais, le gars, il arrive, puis là, lui, il va battre Brock Lesnar, à qui il donne 261 livres, à peu près. »
Personnellement, non, mais si tu, mettons, là, vague booking de même, là, mettons, tu le fais, il se pointe au Rumble. Un, t'as le toit de l'aréna qui explose, comme AJ Styles l'a 3 ans. Deux, si, mettons, là, tu le build après ça, pour qu'il soit, dans le fond, le, comment je peux dire, là, le vrai underrated, puis que t'amènes, dans le fond, son... Tu sais, le gars, il ira pas à NXT, ça, c'est sûr et certain.
Non.
Tu sais, c'est que tu le build vraiment pour qu'il soit...
C'est pas EC3, tabarnak.
Ça, j'en reviens pas qu'ils l'ont... Je suis pas un fan d'EC3, hein, mais j'en reviens pas qu'ils l'ont signé. C'est juste ça j'avais à dire.
Pas le choix d'être big pareil, mais en tout cas.
Il était big, oui, mais tu sais, mettons, il y a des gars qui vont me. Tu sais, chic Bastien trip sur Miz. Toi, je pense que oui, je suis pas sûr. Moi, Miz, je suis pas capable. Mais tu sais, il y a des gars de même que je suis pas capable. Mais tu sais, mettons, tout ça pour dire, si t'es capable de bien le builder, puis que t'amènes vraiment un. Comment que je pourrais te dire, là. Pas juste un underdog, mais regarde. Regarde qu'est-ce que j'ai fait au Japon. Okada, il a été champion longtemps. Ça a pris une victoire d'Okada. Ça a pris un match nul.
Ouais.
Ça a pris un best of three falls pour gagner. C'est sûr et certain que si t'amènes cet edge-là, tu peux faire de quoi de solide. Puis en plus, le gars...
Il va arriver à WWE, ils vont jamais mentionner qu'il s'est jamais battu au Japon parce qu'il n'y a aucune autre fédération autre que, non, plus que la WWE.
Mais non, on s'entend que Kenny Omega arrive puis tout le monde l'appelle Rookie.
Ouais,
genre, il va y avoir des gars de littéralement genre 22 ans qui vont dire « Hey, kid! »
Ouais, c'est ça. Je sais que ça va être mal fait. Mais ça va faire chier.
Mais tu sais, de toute façon...
Que le potentiel...
Tu sais, c'est le standard, c'est de battre Brock Lesnar. Il n'y a pas grand monde qui vont réussir. Parce que je trouve que la WWE, c'est tellement tiré... Tu sais, la pire erreur qu'ils ont fait, puis maintenant, ils sont prêts avec ça, c'est de l'avoir fait battre Undertaker.
Ben oui.
Depuis qu'ils l'ont fait battre Undertaker à WrestleMania, c'est que c'est impossible de le faire perdre. C'est impossible qu'il perde parce qu'il a gagné le combat qui était digne, genre, infaisable. Fait que maintenant, tu vas dire quoi? Genre, le gars, il a battu Undertaker, il a brisé la streak, mais depuis ce temps-là, c'est correct. Maintenant, il perd contre, genre,
no un gars, genre,
de... Non, mais tu sais, il perd contre un gars de 215 livres, genre,
mais
non.
Ouais, mais... Mais tu sais, c'est... Encore là, ça dépend de ton build-up. Parce que là, on va se dire, Lesnar... C'est fini à Mania probablement parce que ouais, il va aller se battre contre David. Puis j'espère qu'il va
aller. S'il réussit à être clear.
Ouais, mais là c'est.
Il paye son amende de 250 000$ à la commission et tout. Je suis pas sûr qu'il y ait l'air bien parti de payer ça. Ouais.
Je pense qu'il gagne des 6 chiffres ses combats là, en ce moment.
Ouais, mais gros, c'est pas parce qu'il gagne des 6 chiffres qu'il va aller payer 6 chiffres d'un amende. Mais c'est Brock Lesnar le gros.
Ouais, il fait genre. Quoi, 1 million par combat en ce moment, lui.
Hey, c'est pique au gun quand tu y penses. Là.
C'est.
Il revient pas, lui, d'ailleurs. Là.
Il revient demain parce que Mean Gene est décédé. Là, puis il va battre une promo parce que c'était deux bons chums.
C'est rendu ça qu'il fait. C'est rendu le good guy. Il est là pour coder des promos de gentillesse.
Ouais, mais tu souhaites-tu le voir à WrestleMania? Tu souhaites-tu le voir se
battre?
Ah,
c'est pas go for it.
Mais non, c'est pas vrai.
La déception complète, on est là, voir.
Moi, je veux Hogan contre Surgeon Slaughter.
Il y a pas assez de bons lutteurs sur le roster. Faites-nous une place pour un combat d'Hulk Hogan à WrestleMania. Mais c'est déjà qu'il n'y a rien que des astis de part-timers sur ce show-là, le gros.
Mais j'ai hâte peut-être de lutte, par contre. C'est que je suis pas le même genre de fan de lutte que vous autres. Pas que j'aime la WWE en ce moment, mais je suis plus un fan de gimmick que de... T'sais, moi, de savoir que, mettons, je sais pas, là, que Dolph Ziggler, il est écœurant dans le ring, je m'en sacre. Juste parce que son personnage m'attire pas, je le trouve pas charismatique.
Ouais, personnage de
mort. T'sais, au final, la lutte, mais tout le monde voit ça différent. Moi, c'est parce que je sais que pour moi, la lutte, c'est les personnages. C'est les promos, c'est les personnages, c'est les gimmicks. Parce que pour le reste, pour le combat, tu sais, je suis toujours des combats, je regarde les MMA. Tu sais, moi, de voir que, oh, Dove est bon, il a réussi à sell, je m'en sacre parce que, anyway. Tu sais, je dis pas que je trippe sur le Great Khali, là. La limite entre les deux.
Big Show. Genre
Hogan. Mon préféré, c'est le Big Show.
Ouais. C'est une phrase que personne n'a déjà dit. Le gars, ça fait 20 ans qu'il run. Tout le monde est comme, ah, il est grand. Mais jamais personne n'est supposé l'éliminer au Rumble.
Non. Ça, moi, c'est impossible, ça.
Ça, c'est notre grosse joke, là. À chaque Rumble, on fait des jokes. Surtout que quelqu'un de gros arrive.
Comment ils vont faire pour l'éliminer? Comment impossible, dis!
À chaque. Ça fait 20 ans qu'il est dans le Rumble, ça fait 20 ans que quelqu'un l'élimine.
Le seul, je pense, qui a été capable de l'éliminer tout seul, c'est Chris Benoit. Ouais,
parce que c'est deux-là. Non,
voilà, ouais,
The Rock.
C'est pas arrivé, ça.
Ah oui, ouais, c'est
The Rock, techniquement, même, il savait de chanteur. Mais ça, j'ai jamais su.
Je sais pas c'est qui Chris Benoit. Il y a personne qui a jamais vu de lutte qui s'appelle Ron.
Son fils, c'est pas un lutteur.
Non.
Puis à TLC.
Son fils, il est mort. Mais,
tu vois, si vous voulez savoir ce qui serait passé à Connor si Herbie n'avait pas brisé le choke.
Oh, God.
Mais ouais, c'est ça, mais aussi, je m'en allais avec ça.
Mais moi, ce que j'aime de la lutte, je pense, là, c'est quand c'est drôle.
Moi,
j'aime l'humour dans la lutte. Ouais, c'est ça. J'aime ça quand
tu joues là-dessus.
Mais je sais, quand t'as un esti de build-up d'un combat, là, que c'est juste de l'absurde, que c'est ridicule, puis que c'est drôle, j'aime ça plus que. Donc, gros, quand j'écoutais Raw l'année passée, puis que t'avais.
Ils font semblant que c'est du sport.
Là, c'était la grosse affaire. Moi, ce que j'aimais, Asti, c'était voir Braun Strowman flipper des ambulances, Asti.
C'est ça
que je veux voir, man.
Moi, je veux du over.
Je veux voir PCO qui backflip en bas d'une échelle. C'est ça que je veux voir, le gros.
Moi, je veux voir le gars du vidéo que je vous ai montré hier qui saute d'à peu près 15 pieds dans les airs sur une table, qui rate la table, qui s'éclate le coude sur le ciment.
Oh, gosh!
Ou dans une autre fédération quelconque, la fille qui enlève son tampon pour le crisser dans la gueule d'autre fille.
Ouais, c'est exactement ça qu'on veut voir.
Mais, tu sais, mettons, checker du comic wrestling pis des spots de main, là. Des indies, il y en a plein. Mettons, dans le temps, là, dans son pic, Colt Cabana est incroyable.
Colt Cabana.
Ah, moi, j'étais un Colt Cabana guy, là.
Leon Saver l'a lutté.
Ouais, c'est vrai. Shout-out Leon.
Shout-out à Leon Saver.
Bastien qui est pas venu hier au show.
Ben oui, mais là, il y avait du football dans la NFL.
Ah, on va aller tuer Greedy.
Là, les menaces à Greedy, pour vrai, ça arrive plus.
Je pense pas que Greedy, je pense que ça a collé ça un peu. Hein. Il est trop...
Greedy a tweeté tantôt, là, vu que les Eagles ont gagné.
Je suis content.
Sûrement le premier à aller flipper les chars.
Ouais, fait que c'est ça, man. C'est quand même 1h30. Fait que on peut, commencer à conclure. Le dernier sujet que je voulais qu'on apporte, c'est l'ortie. Nous a dit ça tantôt. J'étais vraiment surpris d'apprendre cette nouvelle-là. Comme ça, l'ortie, c'est pas payant, les deathmatch sur la scène québécoise de lutte.
Ben, fait un bout, j'en ai pas vu.
Comment ça? Mais non, c'est drôle, man. Mais des... Le petit bon vieux deathmatch là, japonais sur YouTube, là. Y a rien de plus drôle que ça, là. Mais... C'est le monde qui se fait enfermer dans des aquariums de piranhas.
Hey, ça, c'était ça, bon, man. Pour vrai? C'était bon, man.
Ma passion, man. Ça, c'était...
Non, mais on parle de
gimmick. C'est l'accent rotten contre son frère, là, avec des barbelés, là.
Non. Fuck, donne-moi des piranhas.
Là... C'était ECW dans le temps. C'était Ian Rotten contre Axel. Il savait, dans le fond, il y avait comme du taping.
Ouais, ça, c'était un petit beau combat.
Plein de colle.
En rappel, on écoutait ce combat-là sur le DVD de la ECW que t'avais chez vous.
Ils se sont crissés ça dans vite cassé, puis ils se donnaient des coups. À un moment donné, ils teasent, genre, le premier punch. Tu vois le premier punch, paf, Blade.
Mais voyons!
Je te jure!
Oh, il se plaignait avec de la vite, esti, man.
C'est incroyable!
T'es mon gaffe, toi! C'était beau, ça! Mais ouais, fait que c'est pas payant les deathmatchs au Québec,
malheureusement. Honnêtement, personnellement, je peux pas te le dire, mais ça. Parenthèse comme ça, là. Fait un bout que j'en ai pas vu au Québec. Mettons des. Tu sais, on va se le dire, là. Tout le monde qui en faisait, mettons, une couple d'années, puis qui sont allés aux États-Unis, Sexy Eddie, Lufisto, ils ont pas de. À ce temps, ils en font.
C'est comme si c'était une expérience que tu voulais pas tout le temps répéter.
Fight!
Pourtant, le bon ami David Arquette a semblé apprécier l'expérience. Quand David, d'un trait de je ne sais quoi, se fit trancher la gorge.
Non, mais t'as pas. Tu sais, comme.
Je sais pas pourquoi il fait ça, putain, c'est un bon spot, là.
T'as tranché la gorge, c'est un deathmatch pour un.
Je viens de penser à quoi? Il va en avoir un. Deathmatch, c'est le dernier combat de Manny. PCP Crazy Fucking Manny, c'est le fondateur de l'IWS.
C'est mon cousin, là.
Passe pas.
C'est bon. C'est bon, c'est Manny.
C'est un cousin loin, n'a pas mis.
Le dernier combat de Manny, c'est annoncé par l'IWS. Je vais aller chercher ça. Il y a Green Phantom qui a longtemps fait des deathmatchs à IWS. Jimmy Havoc, en ce moment, qui est connu pour être le maître du deathmatch.
Le maître?
Non. Il est très...
C'est sa gimmick à lui.
Le maître du deathmatch.
Attends, faut que je...
C'est le meilleur de se faire péter de la vitre dans le front.
Non, mais hey, faut que tu sois gang quand même. C'est... Tu sais, mettons, check...
Gang, c'est une façon de le dire.
Tournament of Death, des affaires de même, c'est fou, là. Je veux dire... Personnellement, c'est pas... Si t'es prêt à le faire, fais-le. Mais, tu sais, c'est...
T'es pas down with the shit, tu vois.
Imagine s'il y en avait à WWE. C'est des fucking dudes PG avec des gimmicks random qui font des deathmatchs.
Ouais, bon. Genre fucking Lance Dorado contre Mustafa Ali, man, dans un deathmatch. Dans un putain de deathmatch de piranha, cage de piranha, man.
Titus au milieu d'un deathmatch.
Titus.
Contre le ring.
Contre Goldust.
Contre le ring.
Contre le ring, man.
Titus au milieu contre Vince McMahon.
C'est vrai que...
Qui ont une bonne few.
Vince, il a quand même été game de faire bien des affaires dans sa vie.
Ah, oh, Stéphanie aussi, t'es game de faire bien des affaires. Hashtag macho man.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un Fans Bring the Weapon match à Unfucking Sension. Ça, c'est le plus gros combat de le plus gros gala de l'IWS. Tajiri contre Mike Bailey.
Tajiri!
Non! Il est encore solide, man!
Tajiri! Crache-tu encore de la poudre?
Oui.
Genre. Il en ingère autant qu'il en crache de cette poudre. Le gars avait un tag team avec Rhino.
Oui, William Regal aussi. Fans Bring the Weapon. PCP Crazy Fucking Manny. Green Phantom Sexy Eddie Jimmy Havoc.
Tu es du PCP Manny. Les fans qui amènent. Hey, on amène quoi? Il faut qu'on amène de quoi de rare random.
Moi j'ai. Il y a déjà du monde qui a amené genre des paddles de kayak, des Nintendo.
Nintendo.
Je te jure!
Nintendo!
Quelqu'un qui se pète avec un Nintendo.
T'apportes mon cave!
Je te pète avec ma 64, genre!
T'apportes une peluche, là!
Ah ben, ça, j'ai déjà vu.
Une vieille grenade, c'est la guerre du Vietnam!
Ça a jamais été déclenché, parce qu'on fait des attentions!
C'est là, t'en veux un deathmatch, tu m'en as un. Grenade on a pas le match.
Ben, tout ça pour dire, ce gars-là, t'as une carte incroyable, mais pour eux autres qui connaissent pas Speedball Mike Bailey, c'est un gars de Valleyfield, je pense, de ce coin-là. C'est un des seuls Québécois en ce moment indépendants qui lutte au Japon. Il est à DDT. Puis, si vous avez une chance d'aller voir un combat de ce gars-là, allez-y. Il a lutté contre Flip Gordon à LDDC.
Il a-tu déjà affronté Razor Revolution?
Non. Pas selon Cage Match.
C'est quoi le prochain combat de Razor Revolution?
Oh!
Où est-ce qu'on peut trouver ça, là? Fans québécois, là. On le sait parce que c'est ça que les fans québécois veulent. Ça entend? C'est du Razor Revolution, le gros, là.
Honnêtement, il va lutter.
Il est pas en cours. On est correct. Excellent. Le Razor Revolution.
Il va lutter. Il va lutter contre.
Buck, il est juste manager pis commissaire parce qu'il permet de garder son t-shirt.
Hey, je t'en laisse ton cravate. Non, pas de cravate, j'aime pas les cravates.
En tout temps que t'as des vêtements, t'es bien à l'aise.
Coupez ça.
Va pas y'a un gimmick de. Tu sais, un petit tout nu, là.
Big Dick Johnson. Accessoirement, mais Young.
Oh gosh! T'en avais un autre aussi dans le temps de la
tienne. Imagine, pourquoi tu prends une légende de ta business et tu décides que maintenant tu vas tout le temps. C'est comme si la NHL au show du All-Star Game avait Wayne Gretzky à poil, là. Show ses balles.
Mais il y en avait un autre dans le temps de la. C'était Mideon?
Mideon, ouais.
Ouais, il y avait un sac banane à l'entour du paquet. C'était toute beauté.
Lui, il y en a eu des gimmicks, Mideon, hein. Il était dans le Ministry of Darkness, t'as fait ouvrir le chest par Undertaker. Puis avant, c'était un des deux. C'était pas un des deux, genre, tu sais, Pig pis Hog, là, les Goodwin.
Me semble que oui, mais...
Ouais, je sens que c'était un des deux.
Ils ont traduit en assis, vous autres, là.
ouais, c'est pas mal, ouais.
Je vais en profiter aussi, parce qu'on est le 6 janvier. Hier, il y avait un spectacle de la FLQ.
Là, c'est pas le Front de Libération du Québec.
Non, c'est la Fédération de lutte québécoise.
C'est important de le dire là, que Paul Rose n'était pas impliqué dans le gala.
Même pas les bogeurs.
Ils ont pas fait sauter une boîte aux lettres. Puis Pierre Laporte est toujours mort.
Oh, God. Pierre, man, ils l'ont pris si jeune. Puis... Vas-y là.
Dans un autre...
C'était en plus, c'était genre le moment, c'était le moment en salle du podcast.
Là, la porte, ils l'ont pris si jeune, puis ils l'ont crissé dans la valise du
Fait que sur ça, vas-y, le moment après ce podcast.
Je veux en profiter parce que en fait, il y avait des gars de Buffalo qui sont montés de cette. Qui sont montés à ce show-là hier. Puis en fait, ils ont eu un grave accident revenant à Buffalo. En fait, c'est Kevin Bennett, Kevin Blackwood, Daniel Garcia, pis Puff.
Puff! Moi, tout, j'ai ri quand j'ai vu Puff, man.
Le pire, Puff, il est 400 livres, mais il est incroyable dans le ring.
C'est un bon lutteur, Puff.
Puff!
Il est très très bon.
Mais maintenant, il est juste connu sous le nom de PDD, je pense. Il est plus Puff!
Fait que sont-tu corrects, les boys?
Ben, il y en a deux, en fait, qui sont blessés gravement.
On est de la merde, hein? Oh, on
est de la merde,
hein? Ouais. Hey, shout out aux Broncos Humboldt.
Shout out! C'est qu'on n'est pas ce bon moment. Hey, j'espère que le monde n'écoutera pas ça jusque là. Calisse!
Oublie ça, ça fait 1h30 que plus personne n'écoute. Je pense qu'on est good.
Hey,
on peut parler de toutes les lassos qui impliquent de cause loin là.
Gros, c'est ça quoi l'affaire, man? C'est que les liaisons ne vont l'écouter jusque là.
J'espère que non. À part nous autres, I guess.
Gros, tu vas-tu vraiment réécouter ça?
Ce bout-là, oui.
Ça pour okay. Ça. Fait que bon, il y en a deux qui sont pas corrects, il y en a deux qui sont pas corrects.
Ben, en fait, c'est ça. Puis en fait, ils ont eu un grave accident de char venant hier. Dans la lutte indépendante, les gars font bien de la route pour se faire connaître, avoir un nom. Puis il y a un GoFundMe sur la page de la FLQ Wrestling. Si vous voulez aller...
Front de Libération. Non. Je vous rappelle, vous ne financerez pas le Front de Libération du Québec si vous allez donner de l'argent.
Non, en effet.
Vous allez bel et bien financer 4 d'autres qui n'ont pas eu un accident de char parce que dans le fond, il fallait qu'ils conduisent un esti de troll pour aller lutter un peu.
Pour genre 4 hot dogs.
Puis sûrement un beau vin, genre. Un beau petit vin, mais t'as-tu fait un nouveau 10 avec Viola Desmond, tu sais, son beau.
Ouais, je l'ai vu.
Fait qu'ils ont peut-être eu deux.
Ceux qui sont verticaux,
right? Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ils ont peut-être eu des nouveaux 10.
Mais. On leur souhaite une.
On leur souhaite un beau rétablissement.
On leur souhaite un beau char neuf. Moi, c'est ça que je souhaite.
Tu vois, Sam, c'est pour ça. Il fait bien sa job de monsieur, man. Lui, il a l'air parti. Envers les gens. J'ai rentré mon cap. T'as pas eu un accident de char. Essaie d'aller lutter parce que c'est ta passion. Moi, je suis pas sûr que t'acheter un beau char.
Un petit beau char sécuritaire pour Puff.
Principalement pour Puff. Hey, Puff, c'est un tir qui est correct, non?
Oui.
C'est quel lobe pour les deux? Ouais. C'est.
Je pense.
C'est le Braidwood, non pas Braidwood,
c'est Blackwood.
Braidwood, c'est le gars qui a fait tes
C'est, si je me souviens bien, c'est Blackwood.
Ouais, c'est ça, Blackwood.
Blackwood,
le goaler des Devils.
On peut-tu parler des gardiens rookies cette année qui dominent 2 secondes?
Mais oui, il est où Corey Schneider, là?
Corey Schneider a pas gagné un match depuis genre novembre l'année passée. Bon, mais pas genre 2018, là, 2017.
Ouais, 2017.
C'est incroyable.
Bon, ok,
ça répond à ma question. C'est ça, puis depuis Mackenzie Blackwood Gold, ça n'a aucun sens. Il gagne tout, puis aussi Carter Hart, là, qui a un bon début, là, je pense que c'est revenu des. C'est des gens random qui go à la Philadelphie. Au dernier nouvelle, c'était Mike McKenna.
Hey, ils ont.
C'est même pas une blague.
Ils changent de. Philly, là, ils ont la curse là, des goalers de
Philly. Ah, ça marche jamais, là. Ils ont eu un seul bon gardien, puis c'était Bobrovski, fait qu'ils ont jamais été au courant qu'il était bon avec eux.
Ah, puis il y a eu le plus grand.
Brise.
Breeze!
Hey, Comment tu les gardiens? Robert Resch.
Roman Checkmanek.
Qui a pas laissé, genre, le... sa carrière, elle avait été scrappée, genre, avec un goal, je me souviens bien, là, vraiment.
Elle a été scrappée avec la façon qu'il goalait.
C'est la façon assez moyenne.
C'est littéralement juste ça. Je pense que le seul gardien que je me souviens qui a performé avec les Flyers, c'était genre Leighton en playoff, puis Martin Biron à un moment donné dans sa vie.
Mais Leighton, il
est. Goaler random, là.
On peut-tu s'en parler des Flyers de 2010, comment ils étaient dominants?
Pas
d'air. Ben, il était solide. Il avait remonté. Il a pas remonté en plus 3-0 Boston.
Ouais.
Puis en finale de conférence.
Ouais, il était 0-3. Ouais, contre les Bruins, ça allait mal. Puis il avait remonté.
C'est incroyable.
C'était vraiment des drôles de playoffs, on va se dire.
Canadien.
Moi, c'est plus Chicago cette année-là que.
Ah non!
Sur papier, une des meilleures équipes que j'ai eues.
Ah, il est incroyable.
Tu sais, quand tu regardes, il y avait tout le corps qui ont encore, qui est rendu plus bon, mais finalement, t'es fou. Tu sais, t'ajoutais. Il y avait Brian Campbell, il y avait Bufflin, il y avait Ladd.
Bufflin qui jouait l'avant.
Il y avait Sharp. Non, Buff est en.
Oui,
c'est vrai,
ouais, cette année-là.
Ouais, parce que j'avais tellement fait chier Pronger en finale. Ouais.
Hey, les deux, là. Vous checkez dans Slot, les deux, là. Crush check, slashing, elbow.
Ah, c'était pas chic.
Incroyable.
Mais c'était beau à voir, c'était le fun à voir. Mais c'était rien de chic.
Là. Moi, la seule affaire, pis ça, c'est mon côté entertaining. La seule affaire que j'ai trouvé pas genre, dans cette finale-là, c'est comment que ça a fini. Genre que personne n'avait vu sauf Patrick Kane qui à l'époque avait rentré.
Ouais. Personne ne savait, ouais.
Puis tu vois juste un tata pitcher ses gants pis que ses chums sont pas trop sûrs. Ah, on a-tu gagné?
Genre, bon, qu'est-ce qui connaît encore Patrick Kane? On va pas se fier à son jugement comme étant un bon jugement, fait qu'on va continuer à jouer. Ah, c'est ça.
En plus...
Chris, il a vu une fille à son goût dans les stands.
On s'entend-tu que Patrick Kane, quand il a gagné la coupe, il a jamais une fille qui aurait été game de shower ses boules comme en finale l'année passée. Les plans de te faire attaquer.
Oh gosh.
La fille à Vegas qui avait flashé. Fais pas ça devant un Kane. Il va te retrouver.
Fais pas ça devant aucun Kane qui joue dans la Ligue nationale.
Ouais, c'est ça, mais j'allais dire comme Kane, Glenn Jacobs, je l'ai chill.
Ouais, non, lui, ouais, ben oui. C'est le
meilleur. Mais meilleur Kane.
Meilleur Kane. T'as un grand homme, Glenn Jacobs. Fait que c'est ça, là, terminé. Est-ce que tu veux plugger là?
Ouais, c'est ça, j'allais dire. On pourrait terminer ça sur Lord. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là?
Avec moi? Ouais. En fait, ce moment, je roule pas mal ma bosse comme chômeur et comme ring announcer. Je suis à la XAW de Sorel, puis je suis aussi à la FCW à Montréal. On a eu un gros gala hier, ma voix est un peu rusty, c'est pour ça. Je roule ma bosse.
Je conduis prudemment.
Il y a peur de se faire poursuivre avec deux gros gars comme nous qui disent les affaires qu'il faut pas causer.
Ouais.
Ça,
on peut même pas dire de quoi on parlait, mais il y a un bout qui a été coupé par peur de poursuite. Si vous voulez savoir quel genre de personne je me trouve à être, je suis le genre de personne qui parle de choses qu'il faut qu'on coupe pour des raisons judiciaires.
Puis c'est pas mal ça, je roule ma bosse. Je travaille fort dans les coins, puis ben, peut-être un jour... on va se rendre le plus loin possible.
Moi, je suis sûr que tu vas être un Jim Ross 2. Ah! Je crois.
Ah, ça, pour vrai, là, je t'ai déjà vu dans le temps que t'as pas full de training pis t'étais bon. Fait que, à cette heure, tu sais, t'es naturel, là, t'as toujours aimé ça pis t'es un gars qui connaît le plus la lutte que je connais. Ouais. Pis, je sais que t'es passionné parce que, tu sais, justement, t'es comme. Nous autres, on check la lutte, man. Genre, là, tu sais. Connais New Japan, les gros events, ces affaires-là, on est au courant du D&D un peu parce que. Moi, je connais PCO à cause du Drew et tout. Mais Chris Lortie, c'est toujours lui qui nous arrive avec genre les estimateurs qu'on connaît pas, même des estimateurs d'affaires obscures. Ouais. Fait que le gars est vraiment passionné, genre de A à Z de la business. Fait que moi, je suis sûr que. Puis là, c'est hot parce que tu le fais pour vrai et tout.
Mais tu vis tes projets. Là.
Mm. Ouais. Fait que. Moi, je suis sûr que ça va marcher, man. Ton affaire. Puis Chris. Ça a du délai, ce petit podcast-là, pareil, man. Je pense pas qu'on est allé vraiment nulle part, là. On a rien appris à personne, mais Chris, moi, au moins, tu vas avoir eu du fun dans la tabarnak.
T'es pas obligé de poster ça, moi j'ai du fun.
Ah, ben ça, on va le faire, nous.
Puis moi, je dis qu'un jour, on fait un podcast, mais c'est juste genre, on dit des choses qu'ils préfèrent qu'on se fait pour. C'est uncensored.
Mais c'est ça qui est le plus drôle, là. Entre vous et moi, c'est vraiment ça qui est le plus drôle.
Ça, je sais que tu enlèves mon filtre, là.
Ça, pis le poté du kicker des Bears tantôt. Si tu veux parler de deux affaires drôles, on peut finir là-dessus. Là. Le kicker de l'année, mesdames, messieurs. Combien de kickers ont ruiné des games là, des dernières saisons? Là? Mais ça, c'est quelque chose. Comment il s'appelle ce style-là déjà?
Farley, je pense, quand même.
La fois de
même. De toute façon, c'est plus vraiment important. À voir à partir de juillet avec vos alouettes de Montréal.
Ça, c'est malheureux.
Il va être avec Johnny Manziel.
C'est-tu moi qui étais jeune dans le temps? Ou, genre, dans le fond, les alouettes, ils ont déjà vraiment joué du football potable, genre. As-tu déjà été potable écouter ça ou j'étais juste jeune dans le
monde?
Parce qu'aujourd'hui, on dirait que je check la ligue de la canadienne puis je trouve que c'est un institut.
Je réalise qu'on a probablement des souvenirs beaucoup trop glorieux de Jermaine Copeland, Kwame Cabell,
Ben Cowan,
Mike Pringle.
Mais c'était quand même vraiment le fun à regarder. Au moins, tu sais, c'était de la moindre qualité, mais le fun à regarder, tu sais. Mais là, maintenant, c'est terrible. Il y a rien à voir là. Puis, tu sais,
c'est comme un esti de bonne carte de Bellator, genre, qu'il y a Chandler contre Alvarez dans le main event. Pis là, aujourd'hui, on se retrouve avec une carte de Bellator avec genre Shamrock contre Ortiz dans le main event.
Ouais, mais c'est ça. C'est
pas pour vrai.
C'est ça. Ouais, gros, Chuck Liddell s'est battu contre Tito Ortiz l'an passé. C'est Cody Parkey, man.
Cody Parkey.
Pour lui donner son shout-out, là.
Si vous voulez le prendre dans votre...
Ouais, dans votre pool pour le plus
de potes. Dans votre fantasy team, pour prendre le poteau.
Pour le plus de chances de ne pas être un kicker de la NFL l'an prochain.
Ah, celle-là, c'est un fou cœur de la mascotte. En tout cas, mais... La mascotte a vraiment un bon punt returner, clairement. Celle-là, il peut pas retourner en pognant le poteau.
Hey, le gars, il doit déjà recevoir des menaces de mort en ce moment.
Mais c'est ça, puis en plus, tu sais, les alouettes,
dans le temps. Il y a très peu de meurtres à Chicago
aussi. Non seulement, ouais, c'est ça, c'est vraiment pas violent comme place.
Mais ouais, c'est vrai, les alouettes, dans le temps, c'était fou.
Dans le temps, c'était le fun à regarder au moins, puis de toute façon, la CFL continue de s'affaiblir. Je veux dire, avec la XFL qui s'en vient, je pense pas que ça va être un grand succès, mais. Moi, je pense que ça va être un plus gros succès que la première fois, puis ils vont quand même avoir un certain viewership, ne serait-ce que Saint-Louis, parce qu'ils sont plus l'équipe de la NFL anyway.
Là, ils vont faire ça après la saison de la NFL.
Ouais, c'est ça, ils startent ça une semaine après le Super Bowl en 2020. Puis tu sais, je veux dire, ça a l'air moins calme que c'était un peu. Là. C'est plus genre tout est permis, c'est plus genre un death match sur un terrain de football. Là.
Mais ils ont plus de.
Ça a l'air qu'il n'y aura pas de poubelle à se pitcher ni rien. Apparemment, ce serait du vrai football.
Mais ils ont plus de. Comment que je peux te dire?
Le commissaire, c'est le père d'Andrew Luck qui était le commissaire de la NFL Europe. Tu sais, je pense que cette fois, ils ont quand même des appuis qui ont de l'allure. Je pense que c'est un vrai projet, mais pas genre de joke. Là.
Quand ils ont lancé, dans le fond, j'avais écouté le documentaire de la XFL d'ESPN.
Uh-huh.
Il y avait, dans le fond, 3 mois pour repêcher, préparer les équipes. Tu sais, dans un sport qui est aussi stratégique que le football.
Ouais.
Trois mois, c'est pas encore.
En 3 mois.
Juste pour vous donner une idée.
Genre, Bill Belichick prépare déjà probablement la saison 2023-2024.
Exact. C'est...
Il a déjà fait du tape d'un gars de 12 ans pis c'est même pas pédophile.
Mais genre, lui, quand il va jouer ST pour les Broncos, ah, ça, finale de conférence.
Ah, putain. Ça,
ils vont le péter, cette petite crise.
Ouais, c'est ça,
j'ai vu. On a vu, il est pas bon contre la pression. Amène un blitz à gauche, tu vois rien.
Le jeune KRZ Plumber.
KRZ Plumber. Oh my god, c'est incroyable comme nom.
Shout out à KRZ Plumber. Pis Edge Lambert, qui ont été repêchés dans le WWE il y a quelques années.
Quoi, c'est des vrais noms?
Ouais!
Non!
Ouais, il y avait Chris Plummer, mais Chris c'était KRZ. Dans le même draft, il y avait Edge Lambert.
Edge?
Ouais, c'est des foutus noms.
Adam Copeland Lambert.
Ouais, ça c'est son nom complet.
Ouais, Martin Farcouti.
Ouais, c'est ça, Martin Farcouti.
Fou de fou que ça.
C'était même pas une voyelle.
Ouais, bon, ben c'est
juste que t'as marqué KRZ.
Ouais. KRZ. KRZ. Hey, ça c'est le closing statement. Pensez à ça.
Ouais, méditez là-dessus.
Ciao.